Il est 7h sur Europe 1.
Paraît qu'on s'habitue aux horreurs qu'on vit là, mais l'innocent qu'on tue, on ne s'habitue pas.
L'hommage de toute une nation à son héros tombé parce qu'il défendait la liberté d'expression. Nous serons dans la cour de la Sorbonne dès le début de ce journal pour revivre la cérémonie à la mémoire de Samuel Paty. 7 personnes dont 2 adolescents mis en examen et la mosquée de Pantin a fermé ses portes hier soir, décision qui suscite l'incompréhension des fidèles. Jean Castex devrait annoncer de nouveaux départements en couvre-feu. Les chiffres sont de plus en plus inquiétants. Pour mieux lutter contre la contamination, l'appli Stop Covid change de nom aujourd'hui pour devenir Tous Anti-Covid. Barack Obama à la rescousse, premier meeting de soutien à Joe Biden pour l'ancien président qui n'a pas mâché ses mots contre Donald Trump.
Tweeter devant la télé, ça ne résout pas les problèmes. Raconter n'importe quoi, ça n'améliore pas la vie des gens.
Et puis vacances, j'oublie tout. Pas vraiment, les retrouvailles en famille ont un goût amer quand on veut respecter scrupuleusement les consignes sanitaires. Reportage à suivre à la boule.
C'est de loin le plus gros budget de l'Union européenne, la politique agricole commune. Les 27 viennent de se mettre d'accord pour les 7 ans qui viennent avec un nouvel enjeu, l'environnement. Ce sera l'éclairage éco de Nicolas Barré. À suivre aussi le regard international de Vincent Hervouet et l'édito sport de Virginie Fulpin sur ce projet, transformer la Ligue des champions de foot en une super ligue réservée aux plus grands clubs. Et puis on retrouvera Stéphane Bern, comme chaque matin, pour votre rendez-vous d'histoire. Bienvenue, bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ils étaient 400 dans la cour de la Sorbonne. Nous étions des millions devant notre télé, notre radio. C'est toute la France qui rendait hommage à Samuel Paty hier soir, moment d'union et d'émotion, résumé par Pierre Herbulot.
L'amour et la séparation, c'est ce que raconte cette chanson de U2, celle qui accompagne le cercueil de Samuel Paty dans la cour d'honneur de la Sorbonne.
Nous te saluons, camarade, tes frères et sœurs de classe préparatoire.
Amis, collègues, élèves se succèdent au pupitre pour lire un texte, une lettre et un poème.
À Samuel Paty, paraît qu'on s'habitue quand l'infâme est légion. Tous ces hommes abattus pour les traits d'un crayon. Paraît qu'on s'habitue aux horreurs qu'on vit là, mais l'innocent qu'on tue, on ne s'habitue pas.
Le président Emmanuel Macron prend la parole.
Nous continuerons, professeur.
Il s'adresse aux professeurs d'histoire.
Nous continuerons ce combat pour la liberté dont vous êtes désormais le visage. Parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais.
Une minute de silence, une Marseillaise et le cercueil repart, applaudi par des milliers de Français rassemblés autour de l'université.
Et tard dans la soirée, on a appris la mise en examen de 7 personnes, dont 2 collégiens de 14 et 15 ans, pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
Oui, ils restent en liberté sous contrôle judiciaire et risquent jusqu'à 20 ans de prison. 5 autres personnes sont mises en examen, notamment un père d'élèves et un prédicateur islamiste. Tous sont en détention provisoire.
Et c'est l'un des premiers signaux de l'offensive du gouvernement contre l'islamisme radical. La mosquée de Pantin a fermé ses portes hier soir pour 6 mois. Mathieu Bock a rencontré les fidèles à la sortie de la dernière prière.
À peine le prêche de l'imam terminé que les fidèles pressent le pas pour rentrer avant le couvre-feu. Les visages sont fermés. L'ambiance était lourde pendant cette dernière prière, disent-ils.
Eh ben, on est triste. On paye pour ce qu'on n'a pas fait. Monsieur le Président, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, donnez l'ordre qu'on nous réouvre notre mosquée. On a l'habitude de prier là. On fait rien.
La mosquée, c'est une grande chose pour un croyant. Surtout Pantin ici. Nous, on n'a pas d'autre mosquée ici. Je viens près de 10 minutes d'ici pour faire la prière si c'est fermé où je vais aller.
Mais avant de fermer la mosquée, son président Mohamed Enich a pris la parole une dernière fois. Raconte Moussa, un jeune fidèle qui habite le quartier.
Le président de la mosquée a pris la parole. Il a reconnu ses torts, que c'était lui qui avait posté la vidéo. Il s'est excusé devant tous les fidèles. Nous, on le pardonne. C'est l'humain. Ça arrive, on fait des erreurs. Il a dit qu'il fera le nécessaire pour que la mosquée ne ferme pas immédiatement. Du coup, il fera tout son possible.
La mosquée a en effet 2 mois pour contester cette fermeture devant le tribunal administratif.
D'ailleurs, dès hier soir, la Fédération musulmane de Pantin a déposé un recours pour suspendre cette fermeture devant le tribunal qui devrait statuer sous 48 heures.
Il est 7h05 sur Europe 1. L'autre grand titre en ce jeudi matin, c'est Jean Castex qui va lui-même annoncer le passage de nouveaux départements en alerte maximale, synonyme de nouveau couvre-feu. Le Premier ministre prend la parole à 17h.
En France, comme chez nos voisins, les indicateurs sont inquiétants. L'épidémie se propage de plus en plus vite et pour mieux tracer les malades et leurs contacts, l'application Stop Covid devient aujourd'hui tout tous anti-Covid. Jusqu'ici, on ne compte que 2 600 000 téléchargements. Le gouvernement veut donc l'améliorer, cette application, Clément Le Saffre, avec de nouvelles fonctionnalités.
Oui, l'objectif, dit-on chez Cédrico, c'est de rendre tous anti-Covid plus interactif que son aîné. Alors déjà, une précision, pas besoin de télécharger une nouvelle application, il s'agit d'une mise à jour de Stop Covid. Elle sera disponible ce soir, après le point sanitaire de Jean Castex et Olivier Véran. Parmi les nouveautés, l'activation de l'application devrait changer. Jusqu'ici, on la mettait en marche une fois, puis on ne l'ouvrait plus. Désormais, on pourra l'activer manuellement à chaque fois que l'on prend les transports en commun, que l'on entre dans un magasin bondé ou que l'on va au restaurant. En fait, tous anti-Covid doit devenir un réflexe, une application que l'on consulte régulièrement. C'est pour ça qu'elle intégrera un onglet pour suivre l'évolution de la propagation du Covid dans sa ville ou son département. En revanche, plusieurs pistes ont été abandonnées. Pas de QR code à scanner à l'entrée des restaurants pour s'enregistrer. Pas non plus de prise de rendez-vous pour un test directement dans l'application. À la place, tous anti-Covid vous indiquera quand même les centres de dépistage les plus proches.
Clément Le Saffre.
La première vague a-t-elle été gérée correctement? Édouard Philippe était entendu hier par la commission d'enquête à l'Assemblée.
Et pendant près de 3 heures, l'ex-premier ministre s'est justifié, assurant que sa gestion de crise avait permis de sauver beaucoup de vies, tout en insistant sur les incertitudes liées au virus. Aurélie Herbemont.
Comment gérer l'ingérable? Tel aurait pu être le sous-titre de la défense d'Édouard Philippe. Dans une crise marquée par l'incertitude chronique, illustration sur les masques, il admet une erreur de communication.
J'ai dit à 13h de TF1 que le port du masque en population générale n'avait aucun sens. Parce que des médecins me l'avaient dit. Aujourd'hui, la doctrine a changé.
Doctrine évolutive face à un virus inconnu que les médecins ont du mal à cerner et les gouvernants avec eux.
On n'est pas sûr qu'une fois qu'on a eu la maladie, on sera immunisé. On peut l'avoir une deuxième fois et cette fois-là, sera plus grave. Quand vous devez définir une stratégie de réponse à la crise avec ce type d'incertitude, bon courage.
Pour sa défense, Édouard Philippe pointe aussi l'absence de consensus politique, comme la veille du premier tour des municipales.
Certains me disent « il faut ne pas tenir les élections, ça n'est pas raisonnable », sans me dire comment. D'autres m'ont dit « si les élections se ne tiennent pas, c'est la guerre ».
Plus de 2h30 à justifier sa gestion de crise avec une question fondamentale.
Comment est-ce que vous la gérez quand vous avez immédiatement le risque pénal sur le dos?
Édouard Philippe est bien placé pour en parler puisqu'il est visé par une enquête de la Cour de justice de la République.
Le Grenelle de l'éducation lancé aujourd'hui doit se poursuivre jusqu'en février, date qui avait été arrêtée depuis longtemps. Il s'agit avant tout de revaloriser le salaire des profs, mais aussi dans le contexte actuel de leur proposer des mesures de protection supplémentaires.
Et le ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Il est 7h07 sur Europe 1. Barack Obama s'engage pour Joe Biden et tacle Donald Trump. Et puis les vacances avec papy, mamie, mais à distance. C'est à suivre dans votre journal de 7h. À tout de suite.
Europe Matin. Le 7-9. Sébastien Krebs.
Il est 7h09 sur Europe 1, la suite du journal Hélène Zélani.
À moins de 2 semaines de la présidentielle américaine, Barack Obama entre dans la danse. L'ex-président était hier soir en meeting à Philadelphie en mode drive-in, c'est-à-dire avec des sympathisants dans leur voiture. Premier meeting de soutien à Joe Biden et critique salée à l'encontre de son successeur Donald Trump.
Ce président veut tout le mérite pour une économie dont il a hérité, mais aucune responsabilité pour la pandémie qu'il a ignorée.
But you know what? The job doesn't work.
Mais vous savez quoi? Ça ne marche pas comme ça, ce boulot.
Tweeting at the television doesn't
Tweeter devant la télé, ça ne résout pas les problèmes.
Making stuff up.
Raconter n'importe quoi, ça n'améliore pas la vie des gens. Nous ne pouvons pas nous permettre 4 années de plus de ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, en ce moment, vous pouvez choisir le changement. Là, maintenant, vous pouvez voter pour mon ami Joe Biden.
So Joe's not gonna screw up tests.
Joe ne va pas faire foirer le système de dépistage. Il ne va pas traiter les scientifiques d'idiots. Il ne va pas transformer la Maison Blanche en foyer de contamination.
Joe
va maîtriser cette pandémie.
Donald Trump
ne va sûrement pas tous nous protéger. Il n'est même pas capable de se protéger lui-même.
Barack Obama, traduit par Xavier Yvon. 40 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation. Dernier duel télévisé Trump-Biden ce soir à Nashville, dans le Tennessee.
C'est une première. Le pape François défend le droit à l'union civile pour les couples gays. Ce sont des enfants de Dieu, dit-il dans un documentaire. On y reviendra dans le journal de 8h.
Les grandes tablées, les embrassades, c'était avant l'épidémie de Covid. Désormais, on garde ses distances et son masque et ça donne une saveur bien différentes aux vacances de la Toussaint.
Un rendez-vous familial par excellence, mais il faut prendre ses précautions, surtout quand on est grand-parent. Illustration à la boule avec François Coulon.
C'est le fiston qui a piloté l'opération commando chez papy mamie à la boule. Hors de question de coucher sous le même toit. Les 3 petits-enfants et leurs parents restent à distance, la grand-mère Jacqueline.
Ils ne logent pas chez nous. Ils ont loué, c'est la première fois qu'ils font ça. On se voit, mais ils ne mangent pas non plus à la maison et on se retrouve sur la plage. C'est pas sympa du tout, hein. Les enfants, ils sont un peu perturbés, tout le monde est perturbé. S'ils viennent à la maison juste pour faire pipi, on a le masque. S'ils ont soif et tout ça, on leur met tout à l'extérieur. Tout le monde joue le jeu là, hein. Parce qu'on ne voudrait pas attraper le Covid non plus et on ne voudrait pas leur filer non plus.
Les petits-enfants viennent de Paris, ça fait 2 mois qu'ils attendaient ces retrouvailles. Elles n'ont pas la saveur câline habituelle, le grand-père Michel.
Ils sont venus à la maison me dire bonjour quand ils sont arrivés. Ben, le masque à l'intérieur, les enfants comme les grands-parents. On va leur préparer le dîner pour ce soir. Ils vont dîner chez eux, dans leur appartement, parce qu'on a 75 ans, on fait partie des personnes à risque, hein, donc on n'a pas le droit à l'erreur. C'est dur, quoi. On ne peut pas se toucher, on n'a pas de proximité, mais bon, d'un autre côté, s'il faut passer par là, on est content de les voir dans ces conditions. C'est mieux que rien.
Jules, 5 ans, rêve d'un Noël sans masque et plein de bisous. La Baule, François Coulon, Europe.
Un Noël sans masque et plein de bisous, un rêve très partagé. Un mot de foot avec la défaite de Marseille qui était de retour en Ligue des Champions après 7 ans. 1-0 face à l'Olympiakos en Grèce. Le piano de Keith Jarrett, on ne l'entendra plus jamais en concert. C'est lui-même qui l'annonce dans la presse américaine. Légende du jazz, roi de l'improvisation, il a subi 2 AVC il y a 2 ans. Sa main gauche reste quasiment paralysée. Son dernier concert, c'était en février 2017 au Carnegie Hall à New York.
Et c'était le journal d'Hélène Zelani à 7h12.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Cela fait presque 3 ans que Johnny Hallyday a disparu, mais il est toujours là, dans le cœur de ses fans bien sûr, et en rayon aussi, nouveau titre posthume, il y a quelques jours. Et maintenant un coffret, son rêve américain. Son épouse en revanche était-elle très discrète, et bien ce matin Laetitia Hallyday sort de son silence. Elle a reçu Europe 1 dans un lieu chargé de souvenirs, le bureau de Johnny à Marne-la-Coquette, le tête-à-tête Europe Matin, c'est à suivre à 7h40 tout à l'heure. Mais tout de suite c'est l'éclairage écho de Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouet. À tout de suite sur
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Il est 7h15 sur Europe 1.
Et maintenant, l'éclairage éco vous est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Sébastien.
Directeur de la rédaction des Échos, votre éclairage éco ce matin. Et l'Europe qui veut devenir une grande puissance de l'agriculture durable, c'est le sens de l'accord qui vient d'être conclu entre les 27 sur l'avenir de la politique agricole commune.
Oui, alors il y a un signe assez infaillible qui montre que c'est un bon accord, c'est que les ONG bruxelloises ne sont pas contentes. Pourquoi ? Parce qu'elles voudraient qu'on aille beaucoup plus vite dans la promotion du bio ou dans la réduction des pesticides. Or, au lieu de retenir cette vision extrême et peu réaliste, car souvent déconnectée de la vraie vie des agriculteurs, eh bien les 27 ont trouvé au contraire un compromis qui permet d'avancer vers une agriculture durable sans pour autant déstabiliser tout l'écosystème ni imposer des contraintes insupportables à un secteur qui en subit déjà énormément.
Alors concrètement, qu'est-ce que cette nouvelle politique agricole commune va changer ?
Alors la PAC, vous le savez, c'est de loin le premier budget de l'Union européenne, près de 400 milliards d'euros sur 7 ans. Et plus des 2/3 de ce budget, ce sont des aides directes aux agriculteurs. La grande nouveauté, c'est que 20% de ces aides devront financer des actions en faveur de l'environnement. Alors, ça peut être de l'agriculture bio, de la replantation de haies, des aides pour la forêt, etc. C'est important, mais on n'oublie pas l'objectif principal de la PAC depuis ses débuts dans les années 50, qui est la souveraineté alimentaire. Le but, c'est d'abord de nourrir la population européenne, donc le soutien à la production agricole. Cette dimension productiviste de la PAC, donc, est toujours là. Elle est nécessaire, mais on y ajoute cette dimension verte avec cette part de 20% du budget pour des programmes environnementaux exigeants. Avec cet accord, on a donc un équilibre entre 2 exigences. Produire beaucoup parce que les besoins de masse sont là, mais en même temps, produire mieux.
En même temps, les Français se plaignent souvent des distorsions de concurrence avec les pays de l'Est de l'Europe. Alors ça va changer ?
Oui, aujourd'hui, c'est vrai que des pays comme la France ou l'Italie subissent la concurrence de pays de l'Est, en effet, qui sont beaucoup moins regardants sur les normes et qui ont des gouvernements nationaux aussi moins exigeants. Nous ne pouvons pas être les seuls à interdire certains pesticides ou des engrais si tous les autres les utilisent. Donc oui, les normes environnementales vont être harmonisées, l'accord le prévoit. Ça dit, c'est un gros chantier et ça va prendre beaucoup de temps.
L'éclairage éco de Nicolas Barré, chaque matin après le journal de 7h. À demain. 7h17, on va retrouver Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Sébastien, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Nous allons en Afrique ce matin. Situation extrêmement tendue au Nigeria, des incendies, des heurts, des coups de feu dans la capitale Lagos. Tout est parti de la répression d'une manifestation qui a fait 12 morts. La violence de la police a mis le géant africain à l'arrêt.
Alors à Lagos, il y a 10 fois plus d'habitants qu'à Paris, et eux aussi, ils ont le couvre-feu, il dure depuis 36 heures. Ceux qui traînent en ville courent de vrais risques. Le virus qui les guette, c'est la mort subite, l'émeute et la police qui tirent dans le tas. Depuis 36 heures, le pays le plus riche et le plus peuplé d'Afrique a basculé dans un tourbillon. Le monde est au balcon. Il y a des manifs de solidarité en Afrique du Sud, au Ghana, à Londres aussi. Les stars du rap africain, les ténors de la pop nigériane mobilisent, les superstars Rihanna et Beyoncé relaient. Et même Joe Biden, qui a pourtant autre chose à faire en ce moment, déclare qu'il soutient la jeunesse de Lagos.
Au départ, Vincent, il y a une vidéo.
On voit les policiers d'une brigade, l'équivalent de la BAC, tuer un homme. La vidéo enflamme le net, chacun y va de son témoignage. C'est Black Lives Matter à l'africaine. La police rackette, elle tue, on la hait. Les manifs pacifiques commencent, on est début octobre, et au bout de 8 jours, le gouvernement dissout la brigade, mais c'est trop peu ou trop tard. Alors il décrète le couvre-feu, il déploie les unités anti-émeutes, et ces professionnels vont montrer à la foule désarmée ce qu'est la violence policière. Mardi soir, au péage de Liki, car à Lagos, il y a des péages en pleine ville. La police a prémédité son crime. Elle a éteint les caméras de surveillance, l'éclairage public, les panneaux publicitaires, et puis elle a tiré sur les manifestants. Le massacre de Liki est entré dans l'histoire africaine.
Il y a eu donc 12 morts à Lagos, 30 dans tout le pays. Mais on ne sait pas combien de blessés.
Tout le pays s'est arrêté. 4 millions de tweets hier pour dénoncer le Liki massacre. L'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU, la Grande-Bretagne réclament une enquête. Le Nigeria fait le dos rond sous l'indignation générale. La police dément l'évidence. Évidemment, il n'y a pas de vidéo. Le président Buhari se contente d'un communiqué pour appeler au calme. Avec le couvre-feu, Lagos était déjà une ville morte. Et sans doute que le président est mort aussi. Mais personne n'a encore osé le lui dire.
Le regard international, signé Vincent Hervouet. Il est 7h19. À suivre, un projet qui fait débat. Et si on transformait la Ligue des Champions actuelle en une Super Ligue fermée, réservée à l'élite des grands clubs ? Ça peut paraître séduisant sur le papier, mais c'est tout l'esprit du foot qui en prendrait un coup. C'est ce que va nous dire Virginie Fulpin, l'édito sport, dans une minute. À tout de suite.
Sébastien Krebs.
Il est 7h22 sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre édito sport ce matin avec ce projet dévoilé par la presse anglaise, projet avancé hein, de Super Ligue européenne de football, c'est-à-dire un championnat fermé réservé aux 18 meilleurs clubs du continent avec des affiches prestigieuses du coup presque toutes les semaines. C'est séduisant, mais pour vous Virginie, c'est plutôt un cauchemar, vous n'en voulez pas.
Vous avez bien profité de la Ligue des Champions hier soir, j'espère, hein, parce que cette compétition sera complètement ringarde à côté de cette super méga giga ligue européenne. C'est le serpent de mer du foot, hein, des années qu'on en parle, mais visiblement, c'est beaucoup plus concret. Hein. Dès 2022, demain, quoi, les 18 meilleures équipes européennes pourraient se retrouver au sein d'une ligue fermée. Un championnat rien qu'à elle, qui fonctionnerait un petit peu comme la NBA aux États-Unis. Et tout ça pour la beauté du sport. Je plaisante évidemment, ce qui compte, c'est l'argent pour changer. La FIFA et les grands clubs à la manette ont fait leurs calculs. Cette ligue fermée pourrait rapporter 5 milliards d'euros par an. C'est quand même autre chose que les deux pauvres petits milliards de la Ligue des Champions. Hein. Comme ça, on redistribue aux clubs de cette ligue qui s'enrichissent un peu plus et le fossé se creuse encore avec les autres clubs européens, ceux qui ne feront jamais partie de ce carré VIP du football. On n'est pas bien là, entre nous, sans les gueux ?
Alors donc, pour vous, c'est clairement non.
Bah, c'est un cauchemar. Déjà, je suis désolée, mais j'ai pas envie de voir des PSG Real Madrid à longueur d'année. S'il y a des affiches de dingue toutes les semaines, très rapidement, on va les trouver moins exceptionnelles. Hein, parce qu'il y a toute l'attente d'un match entre cadors qui rend le moment plus précieux. Si on banalise ça, une partie de la magie s'envole. Et puis, cette Super Ligue fermée, ça veut dire qu'on ne raisonne que dans l'optique du foot à la télé. Si vous êtes supporter du PSG ou d'un autre club français qui aurait réussi à entrer dans le Saint des Saints, est-ce que vous allez suivre votre équipe aux quatre coins de l'Europe ? Pour les supporters aussi, hein, il y aura ceux qui auront les moyens et puis les autres. Ça nous promet une ambiance mortifère dans les tribunes. Mais le foot, ça ne peut pas être que des fans de Manchester City qui s'agitent devant leur écran à Shanghai et à Los Angeles. Si ceux qui supportent leur club local, qui vont au stade, ils comptent pour rien, ils auront juste le droit de voir leur équipe se déliter faute de moyens, des clubs qui n'auront pas droit à de grandes affiches, eux, et qui batailleront juste pour leur survie. Le pire, c'est que ça va forcément arriver. On va tuer l'esprit du foot avec cette ligue fermée.
Ouais, et tuer toute forme de surprise, parce qu'il peut aussi y avoir des surprises parfois avec des grands clubs qui flanchent en Ligue des Champions.
Ouais, mais non, mais là, il ne faut pas penser à ça.
Merci Virginie Fulpin, l'édito sport tous les matins à 7h20. On retrouve Stéphane Bern pour parler histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. J'espère que tout va bien. J'espère surtout pour vous, Sébastien, que cette matinale se passe pour le mieux. Bref.
Jusque-là, tout va bien.
Je souhaite que tout soit OK. Tiens, OK. D'où viennent ces deux lettres qui, à coller, signifient que ça va bien ?
Alors c'est vrai que c'est un mot, une expression qui est mondiale. J'ai l'impression que dire OK permet d'être compris un peu partout, en fait, sur la planète.
Oui, absolument. On retrouve cette expression dans différentes périodes et à différents endroits. En Grèce, par exemple, où les marins disent « hola kala » pour dire que tout va bien, les deux premières lettres donnent donc « OK ». Aux États-Unis, durant la guerre de sécession, les officiers chargés de rendre compte du bilan des batailles écrivaient sur des registres « zero killed », zéro mort. Il n'y avait aucune victime pendant la journée. « Zero killed » est devenu « OK ». Donc, OK. Et enfin, avant d'abolir l'esclavagisme dans la France colonialiste du milieu du XVIIe siècle, les armateurs de la traite négrière criaient aux esclaves chargés dans les bateaux « au quai » pour signifier aux malheureux qu'il était temps de débarquer sur les quais.
Ah, bah ça fait beaucoup d'explications. Laquelle est la plus récente ?
Une autre. Encore une autre « OK » viendrait de « all correct » avec « O » et deux « L » pour « all » et un « K » pour « correct » qui était une version familière de « all correct » avec un « C ». Une simple faute d'orthographe expliquant tout. Avouez que c'était important de connaître également les autres explications.
Et puis après, il y a le fameux « OK » de Jacouille la Frépouille.
C'est OK !
Puis là, on ne l'a pas oublié non plus.
Non, on ne peut pas l'oublier.
Historiquement, votre à 16h, quel est le programme cet après-midi ?
Aujourd'hui, Sébastien, on réunit trois ladies sacrément culottées, voire même complètement déculottées. La légende du Moyen-Âge, Lady Godiva, qui aurait traversé son village nu à dos de cheval. Une autre légende, la grande Colette, qui a commencé sur scène. Et Lady Gaga. Ouh là là. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël, 16h-18h sur Europe 1.
Beau programme, à tout à l'heure Stéphane Bern et à demain dans le 7-9.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 7h26, à suivre la météo avec Laurent Cabrol et un nouveau journal à 7h30 avec Sophie Echen. Et à la une, les suites de l'enquête sur le meurtre de Samuel Paty. 7 suspects mis en examen hier soir, dont 2 collégiens qui seront poursuivis pour complicité d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 7h28 sur Europe 1, la météo, Laurent Cabrol, et une journée d'accalmie.
Oui, d'accalmie, parce que le vent s'est calmé, sauf sur la Méditerranée, mais enfin, c'était tout à fait habituel pour cette région de France, cette partie de France, 60-70 km/h accalmie, parce que aussi les pluies seront un petit peu moins présentes. Encore que les pluies fréquentes se situeront sur la Lorraine, l'Alsace, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, le Languedoc et les Cévennes, mais ce sera presque sec sur la Provence, la Côte d'Azur, le Midi-Pyrénées. La région parisienne, c'est un régime d'averse pas trop important quand même. Meilleure chance d'éclaircie pour la Bretagne, Normandie, Picardie, Nord, Val-de-Loire. Si vous habitez le Midi-Pyrénées, la région Rhône-Alpes et la Provence, la région PACA, c'est plus simple, un temps couvert avec peu d'intempéries. Les températures seront douces, je le disais. C'est vraiment le plus agréable de la journée. 18 à Lille, 19 à Rennes, à Belfort et Auxerre, 20 à Bourges, 20 degrés comme à Lyon, Clermont-Ferrand, Paris, Épinal, Itou, 20 degrés, 21 à Strasbourg, 22 à Nice, 23 à Bordeaux, 24 à Marseille, 25 degrés en Corse. Voilà.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez tout de suite, un nouveau journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 7h30.
Il est effondré parce qu'il commence à réaliser ce dont il est indirectement responsable, que par sa faute, un homme a été assassiné.
La prise de conscience d'un des deux collégiens mis en examen après l'assassinat de Samuel Paty. Ce matin sur Europe 1, son avocat décrit un adolescent complètement dépassé par les événements. En plus de ces deux mineurs, 5 autres personnes ont été mises en examen dans le cadre de l'enquête. C'est une information Europe 1. Les chiffres de l'intérim ont été catastrophiques en septembre. Et puis un concours de l'Eurovision version gaulois à découvrir dans le dernier Astérix. Un oublié qui vient de sortir plus de 50 ans après sa création.
Et après le journal, un document Europe 1. On vous emmène dans le bureau de Johnny pour un tête-à-tête avec Laetitia Hallyday. Sa parole est rare. Désormais, c'est elle qui tient les rênes. Comment veut-elle perpétuer l'héritage musical du chanteur ? Elle se confie à Mathieu Charrier. Et puis, on retrouvera Catherine Ney pour l'édito politique et Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous continuerons, professeur, car en France, les lumières ne s'éteignent jamais. Les mots très solennels d'Emmanuel Macron hier soir dans la cour d'honneur de la Sorbonne, après l'hommage national à Samuel Paty, près d'une semaine après sa décapitation à Conflans-Sainte-Honorine.
Et l'enquête avance. 7 personnes ont été mises en examen hier soir, notamment le père de l'élève qui avait dénoncé le professeur et le prédicateur Abdelhakim Sifrioui. Tous deux pour complicité d'assassinat terroriste.
Et parmi les suspects aussi, 2 collégiens de 14 et 15 ans. Et Justin Morin, leur rôle dans l'attaque est clairement établi. Ils ont délibérément aidé le terroriste.
Oui, sans les deux adolescents, le tueur n'aurait pas pu identifier Samuel Paty. Le jour des faits, ce sont bien eux qui lui ont permis de mettre un visage sur un nom en échange d'argent. Le terroriste est arrivé aux alentours de 14h devant l'établissement. Il aborde un des jeunes. Il reste alors au moins 2 heures ensemble, jusqu'à l'arrivée d'autres élèves. C'est à ce moment-là que les deux collégiens lui décrivent physiquement Samuel Paty. Le tueur leur précise son plan. Il prévoit de suivre l'enseignant, de lui demander de dire pardon pour les caricatures du prophète, de l'humilier, de le frapper. Fait marquant, le petit groupe s'écarte ensuite pour se cacher des caméras de vidéosurveillance et d'une patrouille de police. Peu avant 17h, Samuel Paty sort du collège. Les deux adolescents, rejoints par d'autres, le désignent. Le terroriste part à sa poursuite. Ce n'est pas la première fois que deux mineurs sont poursuivis dans un dossier criminel terroriste, mais leur démarche, les longues heures passées avec le tueur, interrogent, selon les mots du procureur national antiterroriste. Vu la gravité des faits, leur âge ne leur permettra pas d'échapper à la prison. Ils risquent jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
Et ce matin, l'avocat de l'un de ses collégiens, maître Charles-Emmanuel Herbière, confie dans quel état d'esprit se trouve son jeune client.
Ce collégien, il a été recueilli par une tante, il est effondré. Il est effondré parce qu'il commence à réaliser ce dont il est indirectement responsable, que par sa faute, un homme a été assassiné.
Il avait récupéré de l'argent du terroriste, votre client ?
Oui, oui, ça s'est acté. Il a récupéré de l'argent qu'il a partagé avec d'autres gamins. C'est un enfant, un gamin en larmes dans un box parce qu'il veut sa maman. C'est un gamin de 14 ans qui, comme beaucoup de gamins de 14 ans actuellement, est davantage préoccupé par la sortie prochaine de la nouvelle PlayStation que par un éventuel voyage en Syrie. Ce n'est pas un extrémiste, ce n'est pas un islamiste, ce n'est pas un fondamentaliste. C'est un gamin de 14 ans qui a accepté de l'argent.
Voilà. L'avocat de l'un des deux mineurs mis en examen joint il y a quelques minutes par Ève Roger.
7h33 sur Europe 1. L'autre grand titre ce matin, c'est l'épidémie de coronavirus et le couvre-feu qui pourrait s'étendre à d'autres villes.
Les chiffres de contamination au Covid explosent. Près de 27 000 nouveaux cas enregistrés. Hier, plus de 2 200 patients en réanimation. Le gouvernement veut étendre les zones en alerte maximale. Le Premier ministre Jean Castex s'exprimera en fin d'après-midi à 17h.
Et voici une autre des conséquences de cette crise sanitaire. En septembre, l'emploi en intérim s'est effondré.
Europe 1 vous dévoile en exclusivité les derniers chiffres du baromètre Prism Emploi. L'intérim connaît un recul de 16% par rapport à l'année dernière sur la même période. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour.
Encore un exemple, hein, s'il en fallait, des difficultés du marché de l'emploi.
Oui, imaginez un peu sur un an, ça représente la destruction de 125 000 emplois en équivalent temps plein. C'est énorme. Et si Prism Emploi est particulièrement inquiet, c'est qu'il s'attendait à une reprise plus franche après le confinement. Parmi les secteurs qui embauche beaucoup moins d'intérimaires en ce moment, il y a le BTP, comme nous l'explique Isabelle Hénaud Chevalier, déléguée générale de Prism Emploi.
Dans le BTP, nous avions assisté à un phénomène de rattrapage relatif, tout simplement parce que les chantiers s'étaient interrompus pendant le confinement et qu'ensuite les entreprises de BTP ont accéléré la livraison de leurs chantiers, ce qui fait qu'entre juin et août, les chiffres de ce secteur étaient plutôt positifs pour nous. Et là, ce que nous constatons, c'est qu'en septembre, c'est l'inverse.
Une reprise fragile pour les uns, inexistante pour les autres. Le secteur des services, par exemple, stagne autour des moins 25%. Et pour cause, il regroupe notamment les acteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.
Information signée Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Aux États-Unis, à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle, ultime débat entre Donald Trump et Joe Biden ce soir à Nashville. L'ancien président Barack Obama s'invite dans la campagne, accusant Trump d'avoir été incapable de prendre son rôle au sérieux.
Et Europe 1 est toujours sur les routes de cette campagne américaine. Grand reportage à suivre, comme chaque matin, dans le journal de 8h. On termine avec cet avis aux fans des Irréductibles Gaulois. Un nouvel Astérix vient de sortir.
Un nouveau ? Non. Cet album intitulé « Le Menhir d'or » est signé Uderzo et Goscinny. Il s'agit d'un oublié sorti en 1967. Et ce n'est pas une BD, mais un livre audio illustré. Mathieu Charrier l'a feuilleté et écouté pour vous.
Menhir mon trône !
Assurance Tourix, notre barde préféré, chante toujours aussi mal. Et pourtant, il a décidé de participer au grand concours des bardes gaulois, un genre d'Eurovision. Assurance Tourix a même répété sa chanson « Menhir Montant » qui ressemble étrangement à « Menhir Montant » de Charles Trenet. Problème, les Romains vont être là à ce concours et Astérix et Obélix sont donc chargés d'escorter Assurance Tourix pour lui éviter des ennuis.
Il sent la noisette.
Oui, mais je crois qu'il va bientôt sentir la châtaigne. Regarde ces hommes qui nous barrent la route là-bas.
Cette aventure de 48 pages était sortie en 1960. 1967, tiré à 100 000 exemplaires et accompagné d'un vinyle, aujourd'hui quasi introuvable. Les éditions Albert René ont donc travaillé à cette restauration avec Albert Uderzo quelques mois avant sa mort. Céleste Suruc dirige Albert René.
Il a adoré l'idée et a supervisé la restauration de tous les dessins. Et je crois qu'il y a toute une génération qui se souvient de ce menhir d'or avec beaucoup de nostalgie.
Et vendu 9,99€, le lecteur découvrira non seulement la version papier avec des dessins recolorisés, le livre fait d'ailleurs le même format que les BD Astérix, mais il est aussi accompagné d'une version audio gratuite, réenregistrée pour l'occasion.
Mathieu Charrier, spécialiste BD d'Europe 1. Et puis le foot, décidément début raté pour les clubs français en Ligue des Champions. Après 7 ans d'absence, Marseille manque son retour. Défaite hier soir contre les Grecs de l'Olympiakos, score final 1-0.
Et voilà pour ce journal complet signé Sophie Echen. Il est 7h37 sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Après les hommages et l'émotion, on va se projeter ce matin sur l'après, le retour en classe après les vacances de la Toussaint. Et plus loin, comment mieux enseigner, mieux parler de laïcité et des valeurs de la République? Comment mieux protéger les profs et les accompagner? Aussi les réponses du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, invité politique de Sonia Mabrouk. Le rendez-vous à 8h15. Mais d'abord, un document. Le rêve américain de Johnny Hallyday.
Les rêves deviennent réalité.
Les rêves deviennent réalité, c'est ce qu'il dit dans un documentaire sur les routes de l'ouest des États-Unis. Son rêve américain, c'est son épouse Laetitia qui nous en parle. Entretien exceptionnel dans un lieu plein de souvenirs. Elle nous a reçus dans le bureau de Johnny, le tête-à-tête Europe Matin. À suivre, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Il est 8h20 sur Europe 1. Sa parole est rare. Laetitia Hallyday a très peu parlé depuis la mort de son mari il y a maintenant presque 3 ans. Elle sort ce matin de son silence et c'est un document que nous vous proposons dans le tête-à-tête Europe Matin. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
C'est vous qui l'avez rencontré à l'occasion de la sortie d'un nouveau coffret qui est dédié au rêve américain de Johnny. Et Laetitia Hallyday vous a accueilli dans un lieu plein de souvenirs.
Oui, Laetitia Hallyday nous a reçus dans sa maison de Marne-la-Coquette, au cœur du bureau de Johnny. Et c'est une Laetitia apaisée, souriante que j'ai rencontrée. Elle ne souhaite pas revenir sur l'histoire de l'héritage avec David et Laura. Tout ça est désormais réglé. Aujourd'hui, Laetitia Hallyday veut apaiser les choses et surtout travailler pour que la musique de Johnny continue d'exister.
On écoute cet entretien.
Le tête-à-tête.
Bonjour Laetitia Hallyday.
Bonjour Mathieu.
Et merci de nous recevoir dans le bureau de Johnny Hallyday, au sein de votre maison de Marne-la-Coquette. Déjà, ça vous fait quoi, vous, de revenir ici aujourd'hui? Je ne sais pas si vous étiez beaucoup revenu ces derniers temps. Comment vous vous sentez? Vous m'avez dit en rentrant, rien n'a bougé, effectivement. Il y a des photos et des objets
rien
de Johnny
bougé,
partout.
Tout est intact. Tout est exactement comme j'ai laissé. Je n'ai pas touché un centimètre de ces objets. J'arrive aujourd'hui à rentrer dans ce lieu sans pleurer. J'arrive à trouver la lumière. J'arrive à me recueillir sans avoir peur, sans avoir une douleur profonde qui m'envahit. J'aime être ici, ce lieu est très habité.
Oui, il n'y a pas que dans le bureau, tout à l'heure on était dans le salon.
Ouais, c'est voilà. Pareil, c'est une maison très très habitée, il y a une âme incroyable. Et puis ce bureau, il s'est passé tellement de choses dans ce bureau, c'était l'endroit où Johnny passait le plus de temps à la maison. Et c'est ici qu'il est parti aussi, c'est ici qu'on l'a accompagné dans ses derniers instants. Donc vous imaginez l'émotion.
Et vous, quand vous travaillez, vous revenez là, par exemple pour mettre au point ce coffret, son rêve américain, est-ce que vous êtes revenu un peu ici?
Ouais, je viens allumer des bougies dans son bureau, je viens regarder les objets, je les touche, voilà. Il y a l'odeur, il y a encore une odeur. Le deuil, il n'y a pas de remède à ça, on apprend à vivre sans lui, il a fallu du temps, et puis ça va faire 3 ans bientôt, qu'on apprend, on avance un pas après l'autre.
Il y a un documentaire qui accompagne ce coffret, Johnny sur sa moto, c'est presque un pléonasme, mais Johnny sur sa moto en train de traverser la côte ouest des États-Unis. Pourquoi finalement vous avez voulu cette année mettre ça en avant, Johnny, son rêve américain?
C'est un projet qui est à l'initiative de Johnny, c'est pas mon projet à moi, c'est le sien. Donc j'ai accompagné son projet, son rêve. C'est son rêve américain, c'est cette Amérique qu'il a toujours nourrie, qu'il a toujours construite depuis le début de sa carrière. Il s'est inventé un nom américain, c'était l'Amérique de ses héros, l'Amérique où il était un homme libre, un homme en paix, un papa heureux de pouvoir élever ses enfants dans l'anonymat, de pouvoir marcher dans la rue sans qu'on le reconnaisse, de pouvoir aller au cinéma, au supermarché, sur les terrasses de café, sur les
plages.
C'est sûr
qu'en France, c'était plus compliqué.
Donc c'était ça, prendre sa moto, prendre sa voiture. C'était l'Amérique de tous les rêves possibles. Alors, je ne sais pas si l'Amérique d'aujourd'hui lui plairait beaucoup. Je ne pense pas. Depuis qu'il est parti, l'Amérique a beaucoup changé. Mais en tout cas, je pense qu'à travers ce documentaire, on va découvrir un Johnny qu'on ne connaît pas. C'était juste avant la maladie.
Pendant ce road trip, c'est là que vous apprenez que vous, qu'il est malade.
On l'apprend après qu'il est malade. Il est très fragile pendant ce road trip. Il a des faiblesses, il a des problèmes respiratoires, mais Johnny a toujours eu des problèmes respiratoires. C'est un gros fumeur. Donc on met ça sur l'altitude, sur l'extrême fatigue de tous ces kilomètres accumulés tous les jours. Et sur les routes, c'est plus de 5 heures de moto tous les jours. Mais on ne se doute pas à ce moment-là que notre vie va basculer.
Même lui, il ne le sait pas, parce que je trouve que quand on est face à ce documentaire, on voit qu'il a envie de profiter de chaque seconde.
Chaque seconde, oui. Mais
on se dit, c'est pas possible, il a compris.
Il a toujours vécu à 200 à l'heure, il a toujours vécu dans le partage, a toujours vécu à la fois. C'était paradoxal parce qu'on le sent dans le documentaire qu'il a besoin d'être entouré, mais qu'il est souvent seul face à ces paysages oniriques, ces paysages qui le fascinaient.
Il y a une scène devant Monument Valley où
incroyable,
il dit au caméraman,
elle est magnifique. Dans le documentaire, pour moi, c'est une des scènes les plus belles. Il est dans un hôtel assez roots, assez c'est vraiment un petit motel sur la route qui paye pas de mine et qui est face à Monument Valley. Et là, on le voit dans le documentaire, on voit regarder Monument Valley, de dire au réalisateur, mais regarde, ne me filme pas moi, regarde le paysage, parce que tu peux pas rater ça, quoi. Moi, je suis, ouais, lui, il est connecté à ce moment, dans le moment présent. C'est le petit garçon qu'il était, qui touche sa quête, et qui a trouvé son havre de paix. Il a l'impression d'appartenir à ce lieu, et c'est très émouvant, c'est très très émouvant. Il y a une chanson très jolie qui accompagne ce moment. C'est l'être à l'enfant que j'étais, et on se replonge dans l'histoire de Johnny, l'enfant qu'il était à aujourd'hui.
Vous parliez de sa bande de potes, qui est assez incroyable, c'est des potes de plus de 10,
de
20, 30, 50 ans.
Pierre Billon, c'est plus de 50
mais,
ans.
Mais il précise quand même tous, et ça m'a marqué, que Johnny, on ne lui tapait pas dans le dos.
Non.
C'est-à-dire que cette image à la fois de pudeur, de retenue, même avec ses meilleurs amis, il avait cette distance-là.
Ouais. Il y avait beaucoup de distance, mais c'était sa pudeur. C'était aussi ça. Il avait besoin de ses amis, mais il ne fallait pas que ses amis le trahissent. Il a vécu beaucoup de trahisons, beaucoup de déceptions dans sa vie. Et il était devenu. Il a appris. Il a avancé à travers ses trahisons et ses déceptions. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal à pardonner. Avec le temps, il avait acquis une certaine clairvoyance et un instinct animal incroyable qui m'a donné des très très grandes leçons. La vie lui avait fait comprendre, parce que c'était pas moi, l'homme que j'ai connu il y a 25 ans, c'était pas le même Johnny qui est parti. C'était encore c'est un homme qui a appris, qui a trouvé sa quête et qui avait atteint une certaine liberté de pensée, une liberté spirituelle incroyable. C'était un surhomme, hein. Il fallait voir le courage qu'il avait, à travers cette guerre, cette maladie. C'est monter sur scène alors qu'il est malade, il a un genou à terre. La dernière tournée des Vieilles Canailles, on se demande comment il arrive à aller sur scène. Derrière la scène, il y a quand même on a monté presque un hôpital, quoi, derrière. Il y a un médecin qui lui fait des piqûres dans le ventre. Il y a une machine à oxygène. Et il va sur scène comme un guerrier, un soldat, ne pas lâcher, ne pas montrer. Personne ne pouvait imaginer qu'il se passait ça derrière. Et lui ne veut pas lâcher.
Mais c'est ça qui le fait vivre aussi.
C'est sa survie. Oui. Ça a été sa survie, la tournée des Vieilles. Moi, je ne voulais pas qu'il la fasse, la tournée des Vieilles. J'avais peur pour lui. Je disais que c'était suicidaire. Et en fait, il m'a dit, si je ne la fais pas, c'est que je meurs. Il s'est raccroché à ça. Pour lui, c'était sa force et sa survie. C'est comme ça qu'il était debout. Hein.
Et vous gérez cet héritage aujourd'hui. Je parle de l'héritage artistique. C'est un poids. C'est comment vous enviez d'autres.
Pour moi, de pouvoir le faire, j'ai tellement appris.
Mais l'honneur, je veux bien, mais ça doit quand même être lourd.
C'est lourd, oui, mais je suis bien entourée. J'ai une équipe. L'ancienne équipe est toujours là. Donc c'est très important pour moi d'être. Je me sens légitime de ça et je ne trahirai pas mon mari. Je resterai fidèle aux promesses qu'on s'est faites.
Il y a des envies de musée, d'hommage autour de Johnny aujourd'hui.
On travaille dessus, oui, on travaille. Le musée, pour moi, c'est un rêve. On va y arriver, on travaille dessus, ça prend du temps.
Il y a un projet
concret. Je
pense
qu'il ne faut pas aller trop vite. Une place à Paris pour que les fans puissent se recueillir, c'est quelque chose auquel je tiens. Ça avance. J'espère qu'il est fier de moi. J'espère qu'il est fier. En tout cas, je suis portée tous les jours par sa présence et son amour qui ne me quittera jamais.
Merci beaucoup, Laetitia, de nous avoir reçus ici.
Je suis heureuse de partager ce moment avec vous.
Merci beaucoup.
Merci à toute l'équipe d'Europe 1.
Une lettre à l'enfant que j'étais, tout simplement je lui dirai, sache reconnaître l'amour à temps, tu ne le croiseras pas souvent. Une lettre à l'enfant que j'étais.
Le tête-à-tête Europe Matin réalisé par Mathieu Charrier ce matin, et le rêve américain de Johnny, ce coffret donc qui sort demain avec notamment ce documentaire sur les routes de l'ouest des États-Unis. Il est 7h48, Catherine Ney s'installe, l'édito politique à suivre. On revient sur les mots d'Emmanuel Macron hier soir dans la cour de la Sorbonne lors de l'hommage à Samuel Paty. Et puis on retrouvera Nicolas Canteloup avant le journal de 8h. A tout de suite sur Europe.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
7h51 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito politique. Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Tout de suite retrouvez l'édito politique avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
Catherine, on revient ensemble sur cette cérémonie d'hommage national au professeur Samuel Paty qu'Emmanuel Macron a présidé hier soir. Vous l'avez regardé ?
Oui, bien sûr, une cérémonie magnifique dans le cadre magique de la cour de la Sorbonne. Le temps était clément, l'hommage sobre, ce qui n'en surlignait que plus la tragédie. On a lu la lettre de Jaurès aux instituteurs, qui n'a pas pris une ride, celle d'Albert Camus à son instituteur lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature. « Cela ne serait pas sans vous, sans cette main affectueuse au petit enfant pauvre que j'étais. » Et puis, il y a eu le discours d'Emmanuel Macron, et ça, il sait faire. C'est d'ailleurs dans ces moments-là que la France est singulière.
Emmanuel Macron a cité une phrase prononcée un jour par Samuel Paty devant ses proches. « Je voudrais que ma vie et ma mort servent à quelque chose. »
Oui, incroyable. Mais est-il déjà exaucé ? Oui, puisqu'il y a une prise de conscience, parce qu'une limite dans l'abjection a été franchie. Mais depuis Mohamed Merah, il y en a eu des hommages et des pleurs et des douleurs, des familles dévastées. Charlie Hebdo, le Bataclan, l'épicerie cachère, Nice, Strasbourg. La liste est longue, mais l'émotion retombe parce que c'est la vie, alors que ne surnagent que ces campagnes insidieuses contre l'islamophobie, contre les violences policières. Et là, Mediapart a remis le couvert en dénonçant la barbarie policière qui a tué le Tchétchène meurtrier parce qu'il était musulman. Gérard Darmanin a porté plainte.
Et maintenant, alors déjà, il y a 7 mises en examen. On en parlait tout à l'heure dans le journal de 7h30. La police et la justice travaillent vite dans cette affaire.
Oui, mais on va voir à quoi vont être condamnés les instigateurs du meurtre du professeur. Nous continuerons le combat parce qu'en France, les lumières ne s'éteignent pas, a promis Emmanuel Macron. Mais à question, après ce qui s'est passé à Conflans, un professeur osera-t-il encore évoquer les caricatures de Mahomet et prendre le risque d'être harcelé sur les réseaux sociaux et mettre sa vie en danger ?
Nous vous protégerons dans l'école et hors de l'école, a dit le président au professeur.
Oui, mais pour susciter l'esprit critique des élèves, il faut leur montrer aussi d'autres caricatures de Charlie Hebdo. Le pape dans des postures grossières, infamantes. Ça ne fait pas rire les catholiques, mais ils ne sortent pas les fusils. Alors pourquoi seuls les islamistes en viennent à tuer ? Pourquoi si peu d'imams défendent la liberté d'expression ? C'est ça qu'il faut expliquer aux enfants.
L'édito politique signé Catherine Ney.
C'était l'édito politique avec Chronopost. Chronopost, le partenaire des PME françaises à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
Il est 7h54 sur Europe 1 et tous les matins, juste avant 8h, on retrouve Nicolas Canteloup qui coach, qui conseille l'invité politique de Sonia Mabrouk ce matin. C'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui sera avec nous. Et pour l'instant, c'est François Bayrou qui veut lui donner un petit conseil.
Oui, écoutez,
Catherine Ney, peut-être.
Oui, ça c'est très bien, mais non, c'est pas.
J'entends pas.
Oui, mettez le son à Catherine. Voilà, quatre font 8.
Voilà, d'accord.
Voilà le genre de vérité qui sont même désormais contestées à l'école. Alors je vous le dis,
Sébastien Krebs, c'est mon nom.
C'est bien beau tout ça, mais ce n'est plus possible de continuer comme cela. Alors oui, j'ai un conseil à donner à Jean-Michel Blanquer. Vous le savez, moi aussi, j'ai été ministre en mon temps de l'Éducation nationale. Et contrairement à lui, je n'ai pas eu un seul problème. Voulez-vous, monsieur Krebs, me rappeler une de mes mesures fortes lorsque j'étais en poste ?
Oula, j'ai plus le souvenir là.
Eh bien voilà, c'est ça le secret. L'immobilisme, quand on ne fait rien, on n'a pas d'ennui. Le secret, c'est ça. Et ce devrait être le nouveau slogan de notre République. Liberté, immobilité, fraternité. Qui sème le vent récolte la tempête. Mais qui sème rien, et tout va bien.
Mais tout va bien. Nicolas Canteloup, on verra si Jean-Michel Blanquer suit vos conseils. Il sera donc l'invité politique de Sonia Mabrouk à 8h15. Et Nicolas Canteloup, on le retrouvera bien sûr pour la revue de presque à 8h45. Il est 8h05 pour l'heure. La météo de Laurent Cabrol dans un instant. Et le journal de 8h avec François Geffrier, avec à la une les mesures sanitaires et le couvre-feu qui risque bien de s'étendre à de nouvelles villes. On attend les annonces du Premier ministre cet après-midi. A tout de suite. 7h58, l'heure de retrouver Laurent Cabrol pour la météo. Il fait assez doux, Laurent.
Oui, il fait doux ce matin. Hein. C'est doux et doux dans la journée, d'ailleurs, puisque les valeurs, je le disais tout à l'heure, je les confirme, d'ailleurs, puisque vous savez que le propre de cette météo, c'est de l'actualiser et la réactualiser toutes les demi-heures. Ça, c'est un premier point. C'est ce que nous voulons, Europe 1. Et l'autre point, c'est de pouvoir arroser, si je puis dire, toutes les régions, c'est-à-dire parler de tous ceux qui nous écoutent. Alors, la douceur générale, 18 à Lille, pour les températures les moins élevées, vous voyez ce que ça veut dire, cet après-midi, hein, et 25 en Corse, en passant par 20 à Paris, 21 à Strasbourg, 23 à Bordeaux, on va se régaler de ce côté-là. Le ciel, maintenant, c'est un petit peu moins souriant. Certes, nous aurons des éclaircies sur les côtes de la Manche et la mer du Nord. Certes, le temps sera presque sec sur la Provence, la Côte d'Azur, le Midi-Pyrénées et la région parisienne, où nous aurons quelques averses, avec quand même un brin de soleil. Mais les orages seront là, sur Champagne-Ardenne, cet après-midi, hein, sur le Berry, le Poitou, l'Aquitaine. Et puis, les pluies, assez fréquentes, en Lorraine-Alsace, Dijonais, Auvergne, région Rhône-Alpes, Languedoc et Cévennes. Enfin, le temps couvert avec un petit peu d'intempéries, mais sans plus, pour le Midi-Pyrénées, la région Rhône-Alpes, déjà citée, et la Provence, la Côte d'Azur. Les températures maximales, je vous ai données. Demain, vendredi, ce sera un temps sensiblement identique, mais en atténuation, on perdra du vent encore et on perdra un petit peu de pluie.
Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
On écoute ensemble Le Monde Changé. Bienvenue sur Europe 1 et je salue François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 8h.
C'est une pathologie infectieuse, donc elle flambe. L'augmentation n'est pas souvent mathématique, mais exponentielle. Vous ne maîtrisez plus rien du tout, le virus se multiplie.
Une épidémie qui semble incontrôlable à Roubaix et Tourcoing, 4 à 5 fois plus de contamination qu'ailleurs en France. Reportage dans le Nord, alors que le Premier ministre doit faire des annonces sur le plan sanitaire aujourd'hui. L'hommage de la nation à celui qui est, selon Emmanuel Macron, le visage de la liberté, Samuel Paty. Inspirant pour de nombreux professeurs, ils espèrent un retour en grâce de leur métier. Les imams formés en France, nous verrons comment cela se passe à Marseille. Difficile de trouver les candidats qui accepte toutes les conditions, notamment matérielles. Dans ce journal, le documentaire Francesco et la petite révolution esquissée par le pape. Les personnes homosexuelles ont droit à une famille et d'être couvertes légalement, dit-il. Et puis un bulletin de vote dans une boîte aux lettres plutôt qu'une urne. Y a-t-il risque de fraude ? Reportage Europe 1 au cœur de la machine électorale américaine.
Après les hommages, comment mieux enseigner les valeurs de la République, le vivre ensemble, la laïcité à l'école ? Comment mieux protéger aussi les enseignants ? Les réponses du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer face à Sonia Mabrouk, c'est dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc à tour de rôle. Après Emmanuel Macron, après Olivier Véran, c'est le Premier ministre qui va annoncer les mauvaises nouvelles du jour. 17h, conférence de presse. On le sait, plusieurs départements vont basculer en zone d'alerte maximale.
Le Nord est sous pression. La métropole lilloise est déjà sous couvre-feu. Et une ville en particulier bat tous les records. Roubaix, qui est aussi l'une des plus pauvres de France.
Reportage de Lionel Gougelot auprès de ceux qui sont en première ligne dans cette ville.
Je vois les chiffres qui montent là en ce moment. On vient de passer le 1000 cas pour 100 000 habitants, ça fait peur. On est dans l'épidémie là, on y est.
Depuis quelques jours, chez SOS Médecins à Roubaix, le docteur Platel constate 25% de patients positifs, un chiffre multiplié par 5 en un mois.
Les gens dans la force de l'âge, les gens qui travaillent, les gens qui vivent, les actifs finalement, c'est eux qui, à mon sens, sont la catégorie la plus touchée.
Une épidémie qui frappe une ville fragile, des quartiers pauvres et des logements bien souvent trop petits, ce qui favorise la circulation du virus dans les familles, selon Jean-Philippe Dangouane, adjoint au maire chargé de la santé.
Pour moi, ça reste principalement lié à la jeunesse de la population, à la typologie de la famille roubaixienne, et puis également, après c'est une pathologie infectieuse, donc elle flambe, et l'augmentation n'est pas souvent mathématique, mais exponentielle. C'est-à-dire qu'après, une fois que les chiffres sont élevés, vous ne maîtrisez plus rien du tout, le virus se multiplie.
Mais dans certaines familles, le docteur Platel observe aussi des comportements moins vigilants face au virus.
On voit beaucoup de gens avec des masques qui ont été utilisés, réutilisés, et réutilisés, et voilà. Donc, tout ça mis bout à bout fait que probablement l'épidémie s'étend.
Alors pour enrayer l'explosion de la maladie, la ville va lancer des ambassadeurs de prévention qui iront dans les quartiers pour rappeler le respect des gestes barrières. Roubaix, Lionel Gougelot, Europe 1.
On a recensé hier 166 morts du Covid au niveau national. On attend par ailleurs une mise à jour de l'application Stop Covid pour ce soir. Elle s'appellera désormais Tous Anti-Covid. La Marseillaise par l'orchestre à cordes de la Garde républicaine, la Légion d'honneur, le cadre solennel de la cour de la Sorbonne et des dizaines d'élus présents. C'est bien un hommage national que Samuel Paty a reçu hier soir.
Nous continuerons, professeur, nous continuerons ce combat sur la liberté, a déclaré Emmanuel Macron, saluant en même temps tous les enseignants. Des mots que les enseignants venus assister à la cérémonie ont bien retenus.
Comme Fatima, qui enseigne l'histoire géo dans un collège parisien.
Je trouve que Samuel Paty avait toute sa place à la Sorbonne. Emmanuel Macron a fait en sorte de remettre le professeur, l'enseignant, à la place qu'il a perdue. C'est un métier qui s'est précarisé, désolidarisé. Je crois que ce professeur qui a été très très seul, c'est aussi un peu la défaite des professeurs, quoi. On a perdu du terrain. Vous dites quelque chose, vous montrez quelque chose, on ne croit pas la parole du professeur, on la conteste. Quelle est la place qu'on attribue aux parents? Quelle est la place qu'on attribue aux réseaux sociaux? Je pense qu'il doit être revalorisé dans tous les sens.
Le témoignage recueilli par Caroline Baudry.
Et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sera donc face à Sonia Mabrouk juste après le journal.
Du côté de l'enquête, hier soir, les 7 suspects présentés au juge antiterroriste ont été mis en examen, y compris les deux collégiens de 14 et 15 ans, poursuivis pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
Parmi tous les chantiers qui doivent être menés pour réparer la société et pour que cet acte ne puisse plus se reproduire, la question de la formation des imams, formation en France, se pose.
Des instituts sont donc en train de voir le jour au Mureau, à Lille, ainsi qu'à Marseille, où on va le voir avec ce reportage de Nathalie Chevance. Même quand le cadre est posé, pas facile de le faire fonctionner.
Dans les locaux de la mosquée Al-Taqwa, les salles de classe toutes neuves n'ont pas encore accueilli les premiers élèves candidats au titre d'imam. Ils ne sont que 6 pour le moment à remplir tous les critères. Être francophone, résider en France, avoir le bac, être âgé entre 18 et 45 ans et surtout accepter une formation sur 3 ans à temps complet sans contrepartie financière. C'est là le problème, alors qu'il y a urgence, relève Amar Tazir, vice-président de l'Association culturelle islamique de Marseille.
Il faut trouver les candidats qui acceptent les conditions. C'est très compliqué parce que la formation c'est du 3 ans, c'est pas un mois ou deux. Moi, le message qu'on envoie aujourd'hui à la communauté musulmane qui se dépêche de s'organiser et de participer à la formation des imams. Nous, on conseille les jeunes de venir après 3 ans, il sera imam formé avec un diplôme agréé et un statut imam. Ici, c'est très demandé, donc le travail, ça sera sûr. C'est très important aussi d'avoir des imams formés francophones parce qu'on ne sait pas qui écrit sur l'internet. Est-ce que c'est un imam? Est-ce que c'est un savant? Est-ce que c'est un voyou? C'est ça le danger.
D'où la nécessité de former des imams. La plupart qui prêchent ici dans les mosquées n'ont pas de statut et ne parlent pas français. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Il est 8h06 sur Europe 1. Une révolution au sein de l'Église catholique. Pour la première fois, le pape François se dit ouvertement favorable à l'union civile pour les homosexuels.
Oui, Blandine Hugonnet, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on apprend cette déclaration à l'occasion de la fête du cinéma en Italie.
Et oui, dans un documentaire présenté hier ici à Rome, on entend le pape François défendre les droits des homosexuels, le droit d'avoir une famille et surtout le droit à un statut légal pour les couples gays. On ne doit pas rejeter quelqu'un ou lui rendre la vie impossible parce qu'il est homosexuel, explique le pape en espagnol dans ce film.
Les personnes homosexuelles ont le droit de faire partie d'une famille. Ils sont enfants de Dieu, ils ont le droit à une famille. Ce que nous devons faire, c'est une loi sur l'union civile. Ils ont le droit d'être protégés légalement.
Alors ces propos n'ont pas de valeur officielle au Vatican et on ne parle pas ici de mariage gay, le souverain pontife reste fermement opposé, mais c'est tout de même un signe d'ouverture inédit. Défendre l'union civile entre personnes de même sexe, l'équivalent du Pax en France, eh bien c'est une première pour un chef de l'Église catholique. Jamais le pape François n'avait pris position aussi explicitement en faveur d'un cadre légal pour les couples homosexuels.
Merci Blandine Hugonnet en ligne de Rome pour Europe 1. En France, 10 000 foyers étaient toujours sans électricité hier soir à 22h après le passage de la tempête Barbara et ses rafales enregistrées jusqu'à 200 km/h sur le sud du pays. Le courant est rétabli pour plus de 60 000 logements.
Nous partons aux États-Unis dans un instant avec l'importance du vote par anticipation. Et cette nuit, en soutien à Joe Biden, c'est Barack Obama qui a appelé les électeurs à se mobiliser.
Je m'en fiche des sondages, dit-il.
I don't care about the polls. There were a whole bunch of polls last time.
Il y a eu toute une série de sondages la dernière fois. Ça n'a pas marché parce que tout un tas de gens sont restés à la maison, flemmards et complaisants. Nous allons voir où en est le vote par courrier.
À tout de suite sur Europe 1, il est 8h08.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Et 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
Le deuxième et dernier débat ce soir entre Joe Biden et Donald Trump. Au début de chaque réponse, le micro de celui qui n'a pas la parole sera carrément coupé pendant 2 minutes pour éviter une nouvelle bouillie télévisuelle. Et nous partons tout de suite aux États-Unis. Retrouvez Théo Manval comme tous les jours à 8h.
Bonjour Théo.
Bonjour.
Débat ce soir donc, mais c'est une spécificité très américaine. 31 millions d'électeurs ont déjà fait leur choix en votant par anticipation, souvent d'ailleurs par crainte du coronavirus. Ça représente déjà 1/5 de toute la participation d'il y a 4 ans.
Alors Donald Trump répète que cela va générer une fraude électorale géante. Théo, vous êtes à Madison, capitale du Wisconsin, un état où le vote par courrier est massif.
Oui, je peux vous dire qu'effectivement, il y a déjà des dizaines de milliers de bulletins reçus par la poste dans la mairie de Madison. On en a 10 fois plus qu'il y a 4 ans, explique Jim Verbeek, le greffier de la ville, dans une salle du conseil municipal complètement remplie de boîtes, elle-même remplie de bulletins.
On a dû embaucher du monde pour les réceptionner. On est à peu près 50. On range les bulletins dans des boîtes en fonction du quartier d'où ils viennent et à l'intérieur, par ordre alphabétique.
Vous l'avez dit, c'est la peur du Covid qui a poussé beaucoup de monde, comme Meghan, à voter à distance pour la première fois. Les démarches sont strictes. Il faut une pièce d'identité avec photo pour récupérer son bulletin, la signature d'un témoin qui certifie que vous l'avez bien rempli dans les règles. Mais face à cet afflux, Donald Trump martèle depuis des semaines que la fraude des démocrates sera massive, toutes les usurpations possibles. Alors comment sont vérifiés ces bulletins ? Suivez le guide.
Quand ils arrivent, on les amène dans cette pièce où nos employés vérifient les signatures de l'électeur, de son témoin, les adresses.
On l'entre dans la base de données pour que les gens chez eux puissent voir que leur bulletin est bien arrivé.
Et ensuite, on les transfère dans cette deuxième salle, enfermée dans des boîtes. Dans le Wisconsin, on n'a pas le droit de les dépouiller avant le jour de l'élection. Donc on laisse en permanence 2 personnes dans la pièce. On est les seuls à avoir la clé. Il y a des caméras de surveillance. La police est dans le bâtiment, donc c'est plutôt sécurisé.
Quant à savoir si on peut revenir voter une deuxième fois en personne le jour du scrutin, comme l'assure Donald Trump.
Non, parce que le bulletin reçu par la poste est inscrit dans nos registres. Donc on sait si une personne vient voter 2 fois.
Même le patron du FBI a répété ces dernières semaines n'avoir aucune preuve d'une fraude coordonnée à l'échelle nationale. La vraie question, en revanche, concerne les délais pour le résultat. Dans certains États, on peut envoyer son bulletin par la poste jusqu'à 3 jours après l'élection. Le temps de les dépouiller, de les compter, on pourrait bien avoir un résultat au soir du 3 novembre qui soit en fait inversé quelques jours ou semaines plus tard.
Théo Manval, tous les jours à 8h. Le football, l'OM perd 1-0 dans le temps additionnel contre l'Olympiakos pour son premier match de groupe de la Ligue des Champions hier soir.
C'était le journal signé François Geffrier, il est 8h12 sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Et l'interview politique dans quelques secondes. Bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Comment mieux protéger les enseignants ? Comment mettre véritablement fin au pas de vague ? Comment faire en sorte que le sursaut ne soit pas qu'une parenthèse ? Notre invité fait face à d'immenses défis, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
C'est dans 2 minutes, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
8h16 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview politique d'Europe Matin. Sonia Mabrouk, vous recevez le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Bienvenue à vous et bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Nous continuerons, professeur. C'est l'une des phrases très fortes hier du président de la République lors de l'hommage national à Samuel Paty. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment lors de cette cérémonie ?
Beaucoup d'émotions, comme tous les Français, je pense. Il y avait là... notamment les collègues de M. Paty, certains de ses élèves, et tous ceux que vous avez vus aussi, c'est-à-dire des élèves d'autres établissements, des professeurs, des représentants de la République. C'était comme une forme de communion, de réunion autour de ce qu'il y a de plus essentiel.
Et maintenant, qu'est-ce qui garantit, Monsieur le ministre, que dès la rentrée, le lundi 2 novembre, un enseignant pourra désormais évoquer tous les sujets, tous les programmes, toutes les pages de l'histoire, sans intimidation, insultes, menaces et pire ?
Mais c'est évident que c'est le principe. Et ce principe, nous avons vocation à le faire valoir avant et encore plus après. Nous savons bien qu'il y a des trous dans la République, des angles morts de la République. C'est malheureusement vrai dans bien des domaines, pas seulement à l'école. Tout simplement parce que depuis des années, des groupes font pression sur le terrain, sur certains territoires en particulier, essayent de rendre visible leur pression. Et c'est la pression qui s'exerce des hommes vers les femmes, c'est la pression qui s'exerce vers ceux qui ne sont pas assez pratiquants, selon ceux qui estiment qu'être pratiquant, c'est être radical. Toute cette pression, elle existe, je ne le découvre pas aujourd'hui.
Non, vous l'aviez même dénoncé à votre arrivée au ministère, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les langues vont vraiment se délier, qu'il n'y aura plus ce pas de vague, notamment dans l'éducation nationale?
Vraiment, cette expression, je ne la supporte plus, puisque dès que je suis arrivé, il y a 3 ans et demi, j'ai dit qu'il n'y aurait plus pas de vague. Et dans l'essentiel de l'éducation nationale, c'est en effet ce qui se passe. Et d'ailleurs, même dans notre affaire, il n'y a pas eu du pas de vague. Je tiens à le redire, parce que là, sinon, on colporte des fake news quand on dit l'inverse. Hein. Dans cette affaire, dès le début, la principale a soutenu le professeur et des équipes sont venues en soutien. On n'a pas prévu l'assassinat, certainement, mais il y a eu un soutien de l'institution vis-à-vis du professeur.
Il y a des lâcheté, des chaînes de compromission,
ça existe,
même
ça
de
existe,
soumission.
Mais ça n'est même pas l'explication dans cette affaire, si vous voulez. C'est ce que je tiens à signaler. C'est-à-dire, c'est trop facile de dire c'est le pas de vague. C'est vrai que ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais ça n'est pas ce qui s'est passé là. Et ça n'est pas non plus, évidemment, la consigne que je donne depuis 3 ans et demi. Et c'est pour ça que les choses ont changé. C'est pour ça qu'il y a des signalements. Maintenant, tout ceci suppose un véritable sursaut, un sursaut de l'ensemble des acteurs, pas seulement de l'ensemble de l'éducation nationale, mais de l'ensemble de la société, pour affirmer avec très grande force la fermeté de la République au quotidien. Et c'est évidemment ce qui se passera, et ce qui se passera dès le jour de la rentrée, puisque ce sera significatif, il y aura cette minute de silence, et évidemment, elle sera partout, et elle sera respectée partout.
Mais elle sera respectée, dites-vous. On le verra à l'épreuve des faits. Monsieur le ministre, un exemple concret, un cours abordant le sujet du port du voile dans l'espace public a dégénéré au lycée de Muret, au sud de Toulouse. Une lycéenne a été mise en examen après avoir insulté une enseignante qui avait simplement évoqué ce sujet dans un cours d'éducation civique. Comment vous réagissez à cette situation, loin d'être un fait isolé ?
Oui, ce n'est pas un fait isolé, puisque justement le système de signalement que l'on a mis sur pied nous a permis d'en recenser un peu plus de 900 de ce type au cours de l'année dernière scolaire. Donc il y a des faits de ce type, ils sont signalés et nous réagissons. Le Mostafa Fourard, le recteur de l'Académie de Toulouse, a bien réagi, a fait ce qu'il fallait. Bien entendu, nous sommes en soutien de cette enseignante. Ça illustre ce que je vous disais, c'est que à la fois le phénomène existe, c'est un phénomène de société, et l'institution scolaire doit avoir des réactions à la hauteur. C'est ce qui se passe la plupart du temps, pas toujours, et c'est pour ça qu'on doit s'y attaquer, mais c'est aussi dans cette affaire un sujet qui dépasse largement l'éducation nationale.
Ben justement, j'allais vous poser la question, est-ce que par exemple vous avez toujours la même position sur le voile, parce que c'est ce qu'il est question dans cette affaire. Vous aviez dit en 2019 le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société. Est-ce que vous êtes toujours cohérent avec ce que vous avez affirmé il y a un an?
Non, mais j'ai toujours dit que je ne changeais pas d'avis sur cette question. C'est quand je parle de pression dans l'espace public, cela en fait partie, mais ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui. Ce qui compte, c'est surtout d'avoir une très grande force et une très grande cohésion nationale autour de la fin de la radicalité islamiste dans notre espace public et plus généralement dans notre pays. Mais ça prendra du temps. Le combat a déjà commencé. Ne faisons pas comme si commencer à partir de maintenant. Le combat a déjà commencé. C'est un combat et il suppose le combat de tous, pas seulement de l'État, mais de la
société. Sujet, mais je faisais référence plus largement à votre lutte contre le séparatisme. Et pour certains, le voile peut justement amener au communautarisme. Je prends l'exemple d'un ancien ministre de l'Éducation, 2004, François Fillon, dans les colonnes de l'Express. Il dit il faut bannir le voile de tout l'espace public, pas dans la rue, mais dans les établissements scolaires, lors des sorties scolaires. Il a tort de relancer le débat en ce moment ?
En tout cas, dans l'espace scolaire, le voile est banni, bien entendu. Et c'est, nous faisons respecter la loi de 2004. C'est pour nous très important. Tu sais que François Fillon a été Premier ministre quand son cabinet refusait de condamner, d'empêcher qu'il y ait le port du voile des femmes accompagnatrices. Donc ça me semble un peu étonnant qu'il mette l'accent sur ce point. Mais ce n'est pas le sujet ce matin. Le sujet, il est encore une fois dans la cohésion nationale, la force de la République, pour tout simplement combattre le fanatisme.
On entend bien, monsieur le ministre, mais si je vous pose ces questions, c'est qu'il y a des débats parallèles. Et est-ce que, par exemple, vous considérez que ces parallèles sont peut-être malvenus quand le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit choqué par les rayons de cuisine communautaire halal et cachère dans les grandes surfaces? Pour lui, c'est de cette façon que commence le communautarisme.
De façon générale, on doit être très attentif à même aux petits faits de notre vie collective. Parce qu'il y a des liens entre différents éléments. Moi, je pense surtout aux complicités intellectuelles du terrorisme. C'est à ce point, c'est ce point-là, moi, que je souhaite souligner en ce moment. C'est qu'on a été... Notre société a été beaucoup trop perméable à des courants de pensée, à des acteurs.
Qui, par exemple, des milieux intellectuels, des milieux universitaires, citons-les.
Oui, bien sûr, on peut les citer. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à ce type de choses. Il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là et s'affichent comme tels. Et donc, tout simplement, favorise une idéologie qui, ensuite, de loin en loin, mène évidemment au pire. Regardez dans cette affaire, ce n'est pas un assassin seul. C'est un assassin qui est conditionné par d'autres gens, en quelque sorte, les auteurs intellectuels de cet assassinat. Et quand vous avez des officines, des groupes, comme ceux que nous sommes en train de dissoudre en Conseil des ministres, nous en avons dissous un hier et ça continuera au cours de prochain mercredi, quand vous voyez des groupes de ce type qui ont pignon sur rue et qui, évidemment, ne commettent pas eux-mêmes des crimes, mais encouragent cette radicalité intellectuelle, ils sont en fait les complices intellectuels de crimes. Donc on doit être très attentif à ça surtout, parce que, si vous voulez, le poisson pourri par la tête, autrement dit, ce sont les idées d'aujourd'hui, ce communautarisme qui d'ailleurs nous vient d'ailleurs, qui souvent vient de modèles de société qui n'est pas le nôtre. Nous avons un modèle républicain, universaliste, où,
donc, vous
où
allez
nous sommes
sur
tous
le débat,
égaux les uns aux autres.
Vous allez sur le débat du communautarisme.
De notre religion.
Pardon de vous ramener à cela, mais donc le ministre de l'Intérieur a eu raison de mettre ce sujet sur le tas, parce qu'il est là, il est l'objet de moqueries et de réactions très virulentes.
Nous sommes soudés au gouvernement face à chacun des sujets. Ce qui est, je ne sais pas si ce sujet-là est le sujet. Ce que je sais, c'est que nous ne devons pas hésiter à regarder la situation. Ce que je souhaite, après le drame que nous venons de vivre, c'est qu'on arrête de se tortiller face au problème. Et là, quand je dis se tortiller, je parle du débat public. Je serai vraiment d'une très grande fermeté face à tous ceux qui, aujourd'hui, en se croyant... progressistes en réalité font le lit d'une forme de tolérance à la radicalité. C'est inacceptable et ça mène au pire.
Monsieur le ministre, nous sommes dans un contexte évidemment extrêmement particulier pour l'éducation et vous avez décidé de maintenir aujourd'hui le lancement du Grenelle de l'éducation qui était initialement prévu à l'agenda. Est-ce vraiment la priorité quand les enseignants sont inquiets d'abord pour leur intégrité physique ?
Ce sujet fait partie du Grenelle de l'éducation, justement. Vous savez, le Grenelle de l'éducation, ça fait des mois que nous le préparons. Il y a ce qu'on appelle l'agenda social qui nous a permis de travailler avec les organisations syndicales, non seulement sur l'amélioration de la rémunération des professeurs, mais sur d'autres aspects du bien-être professionnel des professeurs. Ce travail arrive maintenant à maturité. Il est temps d'entrer dans ce Grenelle. Nous avions prévu de l'ouvrir aujourd'hui. J'ai décidé de maintenir cette date, précisément pour ne pas se laisser en quelque sorte abîmer par ce crime.
Vous avez hésité à la maintenir dans un tel contexte ?
Bien sûr, j'ai réfléchi, mais au fond, quand vous y réfléchissez, vous dites, un, il n'y a aucune raison de se laisser infléchir par le crime. Deux, c'est de toute façon d'une actualité encore plus forte, parce que nous devons revaloriser les professeurs, nous devons voir cela pas seulement sous l'angle financier, mais aussi sous d'autres angles, en plus. Et la question, évidemment, de la sécurité ou de la santé en font partie. C'est pour ça que les 3 mois de travail qui s'ouvrent à partir de aujourd'hui, vont être cruciaux. Et là aussi, dépendent de mesures matérielles que nous prendrons, mais aussi d'évolution immatérielle, la perception des choses, la façon dont la société soutient les professeurs.
Vous dites mettre le professeur au centre de la société. Mais ce que craignent, monsieur le ministre, les enseignants, et d'ailleurs au-delà les Français, c'est que ce soit des paroles fortes, que dans 15 jours, un mois, le sursaut soit oublié, qu'il replonge dans l'oubli et l'anonymat.
Ça dépend de nous tous. Pour ma part, ça fait 3 ans et demi que je suis dans le sursaut. Personne ne peut me prendre en défaut de ne pas avoir souligné le problème, de ne pas avoir pris des mesures sur le sujet. Je continuerai. Il faut le faire avec fermeté, avec courage aussi. Ça requiert du courage de la part de chacun d'entre nous. C'est vrai pour vous-même, c'est vrai pour l'ensemble des acteurs de la société. C'est au quotidien du petit courage, du grand courage qu'il faut avoir. Parce que, si vous voulez, nous devons tous notre existence libre à la République, eh bien, nous avons donc besoin de la République, mais aujourd'hui, la République, elle a besoin de nous.
Avant-hier, à ce micro, monsieur le ministre Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation, auteur du rapport en 2004 sur les atteintes à la laïcité, affirme que l'école n'intègre plus, que le manque de mixité sociale est en train de miner l'école de la République dans certains territoires. Il a raison ?
Oui, bien sûr, il faut jouer sur plusieurs facteurs. L'un d'entre eux, c'est la mixité sociale, bien entendu. Il est évident que nous devons marcher sur deux jambes et nous devons travailler d'un même élan vers plus d'égalité, plus d'intégration.
Mais le plus d'intégration et sociale, ou mieux d'intégration. Certains disent, est-ce qu'il ne faut pas aller sur le débat du contrôle de l'immigration pour mieux d'intégration ?
Ah bah, il est évident que l'immigration, elle doit forcément être contrôlée. Et donc, on peut la contrôler davantage. Le président de la République, elle l'a aussi dit l'année dernière, les grandes lignes que nous devions suivre. Je pense, mais ça relève du ministre de l'Intérieur, que désormais, nous devons franchir encore une étape dans ce qui avait été déjà décidé par le président de la République il y a un an.
Qu'est-ce que vous dites ce matin, monsieur le ministre, aux professeurs, aux enseignants qui vont aborder cette rentrée tellement particulière le 2 novembre, d'ailleurs aux élèves et puis plus largement aux Français? Est-ce qu'ils seront protégés?
Oui, bien sûr. Il y a d'abord, nous devons avoir un plan de sécurité pour chaque école et chaque établissement. C'est déjà le cas, mais nous allons le renforcer. Et puis, ce jour-là, c'est l'ensemble de la société française qui doit être mobilisée autour de son école. C'est pourquoi j'ai invité tous les élus de la République à être présents auprès des professeurs. C'est pourquoi j'ai invité aussi toutes les corporations concernées par la liberté d'expression, les avocats, les journalistes, d'autres métiers, à être présents le jour de la rentrée. Je détaillerai les modalités dans un futur très proche. Je travaille à ces questions aussi avec les organisations représentatives des professeurs, de façon à ce que les professeurs ne se sentent pas du tout seuls dans ces circonstances. Ce sera vers le 2 novembre, mais aussi dans les temps suivants. C'est toute la société qui doit être derrière ses professeurs. Et bien sûr, le ministre est derrière ses professeurs.
Un appel au sursaut. Donc ce matin, merci Jean-Michel Blanquer d'avoir répondu ce matin en direct à nos questions sur Europe 1.
Merci à vous.
Merci Sonia Mabrouk et bonne journée, monsieur le ministre. Il est 8h28.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Dans un instant, le rappel de l'info avec Hélène Zellani. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. On va parler de l'hypertension et notre planète avec Fanny Agostini.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
8h32, le rappel de l'info avec Hélène Zellani.
Le couvre-feu devrait s'étendre à de nouvelles villes ou départements. C'est Jean Castex qui lui-même annoncera en fin d'après-midi de nouveaux passages en alerte maximale. Claudia Bertram.
La situation nous inquiète, explique-t-on à Matignon. Et face à la progression de l'épidémie, Jean Castex monte en première ligne. Le Premier ministre dévoilera cet après-midi la liste des nouveaux territoires concernés par un couvre-feu. Les chiffres ne sont pas bons. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, est en hausse par exemple à Clermont-Ferrand, Tours ou Nantes. Et ce taux dépasse désormais le seuil d'alerte maximal dans 22 départements, d'après Santé publique France. Autre indicateur, la barre des 2000 admissions en réanimation pour Covid-19 a été franchie. 6 jours après les premières mesures de couvre-feu, le nombre de territoires concernés augmente donc, mais il est trop tôt pour savoir si on doit en abaisser l'heure, affirme Matignon. Il faut 2 à 3 semaines pour mesurer l'effet de ces mesures, a indiqué le gouvernement. Des mesures nécessaires pour éviter un reconfinement, ce qui est l'objectif, explique un conseiller du Premier ministre. Le couvre-feu est l'arme ultime pour éviter de demander aux Français de s'enfermer à nouveau chez eux.
Et le Premier ministre en prend la parole à 17h. Pour mieux tracer malades et cas contacts, l'application Stop Covid fait peau neuve aujourd'hui et devient tous anti-Covid. Au lendemain de l'hommage national à Samuel Paty, le Grenelle de l'éducation s'ouvre aujourd'hui. Le ministre Jean-Michel Blanquer l'évoquait à l'instant sur Europe 1. Il a décidé de le maintenir. Il faut revaloriser les professeurs et assurer leur sécurité, dit le ministre de l'éducation. Dans l'enquête sur l'assassinat de l'enseignant, 5 personnes dorment en prison. 3 amis du terroriste ainsi que le père d'une élève et un militant islamiste accusé de complicité d'assassinat terroriste. Mis en examen également de 2 collégiens de 14 et 15 ans qui restent libres sous contrôle judiciaire. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. La mosquée de Pantin a fermé hier soir, mais un recours est déjà déposé auprès du tribunal administratif pour demander la suspension de l'arrêté préfectoral. Réponse d'ici 48 heures. Et puis le foot, défaite de Marseille qui était de retour en Ligue 1 après 7 ans. 1-0 face à l'Olympiakos en Grèce. Aujourd'hui, 2 clubs français en Ligue Europa. Nice contre le Bayern Leverkusen et Lille face au Sparta Prague.
Merci Hélène Zellani. Laurent Cabrol pour la météo de ce jeudi.
Ça va mieux, ça va beaucoup mieux même. Hein. Le vent a cessé, ou en tout cas s'est largement calmé. Il est encore présent sur, dans le sud-ouest puisque nous avons encore du vent d'OTAN et nous aurons encore des vents marins sur le Languedoc et le Roussillon. Mais dans l'ensemble, les éclaircies vont s'imposer sur la Bretagne, la Normandie, la Picardie, le Nord et la vallée de la Loire. Un temps presque sec sur le Midi-Pyrénées en raison du vent d'OTAN dont je parlais à l'instant. Et de la région parisienne, ce sera régime d'inverse, mais un peu les bouts de soleil. Allez, c'est pas trop mauvais. On a des orages sur Champagne-Ardenne, le Berry, le Poitou et l'Aquitaine, là c'est pas sympa. Et des pluies fréquentes, c'est pas sympa non plus, en Lorraine, Alsace, Auvergne, Languedoc et Cévennes. Voilà, les températures très douces, je le disais, entre 19 et 24 degrés. La meilleure journée de la semaine sera samedi. Samedi, quand nous passerons à l'heure d'hiver, nous sommes encore en automne, mais il fera un temps presque d'été.
Et ben on a hâte d'être au week-end. Laurent Cabrol, merci. 8h35 sur Europe 1 dans un instant. On prend soin les uns des autres. Notre santé, d'abord, 20 millions de Français souffrent d'hypertension, mais beaucoup ne se traitent pas. Les conseils du docteur Jimmy Mohamed à suivre. Et puis notre planète avec Fanny Anagostini et Nicolas Canteloup pour la revue de presse. À tout de suite.
Sébastien Krebs.
8h37, notre rendez-vous avec notre santé, avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour docteur.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous.
Avec vous ce matin, on va parler de l'hypertension artérielle, une pathologie que tout le monde connaît, mais qui finalement n'est pas bien traitée en France.
Oui, c'est une pathologie qui est très fréquente. C'est un adulte sur trois qui est hypertendu. Et quand on s'intéresse à l'équilibre de traitement, eh bien c'est seulement un hypertendu sur quatre qui a une tension normale. Une tension normale, c'est une tension qui a moins de 14,9. Donc c'est pas des objectifs non plus très importants. On pourrait se dire que c'est pas très grave, sauf que beaucoup de pays font beaucoup mieux que nous. Les Anglais, les Allemands font deux fois mieux. Et ça laisse la France en bas du classement des pays développés en termes de traitement contre l'hypertension. Alors quand on s'intéresse aux chiffres, on se rend compte que parmi les hypertendus, seuls 50% ont un traitement. Et parmi ces 50%, seuls 50% encore arrivent à avoir une tension normale. Ça veut dire qu'on ne les traite pas assez et quand on les traite mal. Le problème, c'est que la situation s'aggrave. En 5 ans, le nombre de patients traités pour une hypertension a baissé d'un million.
La moitié seulement des patients reçoivent un traitement. Il y a des explications à cela. Et d'ailleurs, pourquoi c'est si important de prendre en charge cette hypertension ?
Alors, c'est vrai que c'est difficile de traiter une pathologie sans symptômes. C'est le cas pour d'autres maladies comme le diabète, l'ostéoporose ou même l'insuffisance rénale. Et lorsque vous avez de l'hypertension, vous êtes asymptomatique. Le problème, c'est que cette tension, elle agit un peu comme un tueur silencieux. Vous ne vous rendez pas compte que la pression dans vos artères aura un impact. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'une tension est trop élevée dans un tuyau ? Eh bien, le tuyau risque de claquer. Donc, il est important pour les gens de comprendre que ça a un véritable impact de traiter une hypertension. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont parler à tout le monde. Si vous baissez ne serait-ce que d'un point votre tension, c'est-à-dire que vous avez 15, vous passez à 14. Et bien juste en baissant d'un point votre tension, vous avez 10% de mortalité en moins, 15% en moins de risque d'infarctus, 25% en risque en moins d'AVC, et puis vous diminuez même votre risque de démence. Et donc il faut comprendre que traiter une hypertension, c'est nécessaire, ça fait partie de la médecine de prévention. Et donc ce qu'on peut proposer, c'est évidemment de consulter, mais faire de l'activité physique, de faire attention à votre alimentation, car on n'est pas forcément obligé de passer par un traitement médicamenteux pour améliorer vos chiffres, donc diminuer par exemple votre consommation en sel. Et donc finalement, il faut comprendre que pour prendre soin de sa santé, eh bien il faut prendre soin de sa tension tout simplement.
Voilà, et donc prévenir et surtout traiter les cas d'hypertension artérielle. Merci docteur Jimmy Mohamed, à demain. Il est 9h20 et on va retrouver Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète tous les matins avec vous ce matin. Fanny, vous nous donnez la vraie définition du maraîchage.
Et oui, oui, Sébastien, je voulais qu'on s'y attarde ce matin car ça mérite tout de même clarification. Les maraîchers sont ceux qui cultivent les légumes. Ça, c'est la définition que tout le monde connaît, n'est-ce pas ?
Bah oui. Bien
oui,
sûr.
Vous la connaissez celle-ci.
Ah bah oui,
mais moi
oui.
Je vais vous en donner une autre.
Ah,
en réalité, la définition, sachez-le, elle est étonnamment parisienne. Oui, tout a commencé sur les bords de Seine, du pont de l'Alma jusqu'au Grand Boulevard. Imaginez qu'au 9e siècle, le fleuve formait des méandres avec plusieurs bras. Alors rien à voir avec la séparation actuelle rive droite, rive gauche. Imaginez encore que les terres gorgées d'eau étaient exceptionnellement fertiles et c'est dans ces marécages que les Parisiens pouvaient subvenir aux besoins d'une population moins dense qu'aujourd'hui, mais tout de même relativement nombreuse. De nos jours, dans la capitale, il n'en reste qu'un quartier célèbre. Les terres limoneuses se trouve encore probablement juste en dessous de l'asphalte. Les marais, eux, ont disparu, mais le terme maraîchage, lui, est resté et s'est étendu à toute la France.
Il y a donc encore des endroits en France où on cultive de cette façon ?
Alors, très très peu. Le marais de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, est une zone de maraîchage relictuelle, si l'on peut dire, qui colle à la définition originelle. C'est le seul marais encore habité et cultivé de France, une zone humide qui s'étend sur 15 communes partagées avec environ 440 hectares où une quarantaine de maraîchers y cultivent quelques 50 légumes différents sur un sol de tourbe extrêmement riche, comme il en existait partout en France auparavant, et y compris, vous l'avez compris, en plein cœur de Paris.
Parce qu'en France, comme dans le monde, les zones humides disparaissent peu à peu.
Oui, oui, oui. En quelques décennies, 50% des zones humides ont disparu. Des endroits qui fournissent un quart de la matière vivante, insectes, oiseaux, poissons, amphibiens, végétaux, ils sont considérés comme les milieux les plus productifs au monde parmi tous les écosystèmes de la planète. Alors si nous gardons en tête la définition que je viens de vous donner, la vraie définition du maraîchage, il nous apparaîtra dans le futur peut-être essentiel et logique de préserver ces espaces à haute valeur ajoutée écologique à chaque fois qu'il nous prendra l'envie de construire un building, un parking, un hypermarché ou encore un stade de foot.
Et on apprend donc avec vous, Fanny Agostini, ce matin que le maraîchage est né donc en plein cœur de Paris, sur les bords de Seine. Merci, à demain. 8h42, on va retrouver Nicolas Canteloup et Julie dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
9h moins le quart sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on va retrouver... il est chez lui dans son garage, peut-être.
Oui. Bien sûr. Je vous écoute, ma chère Julie. Bon, mon cher Sébastien, bienvenue sur Europe 1. Bonjour Sébastien Krebs. Sébastien Krebs, oui. Sébastien Krebs, que vous avez apprécié toute la matinée depuis 7 heures. Mon remplaçant, il faut bien le dire. C'est bien, Sébastien, je t'écoutais. Mais tu vas peut-être progresser encore au niveau des DR. Ben oui, ça donne du volume. Europe 1, tu vois, c'est dans le garage. Ça ronde, Europe 1. Voilà. Europe 1, écoute le monde tousser. Enfin non, d'ailleurs, puisque les Français, non, pas tousser, puisque les Français, vous le savez, se vaccinent en masse, les vaccins contre la grippe, à tel point qu'ils sont épuisés. Voilà, on se fait des soirées en se piquant avec des seringues. La France, aujourd'hui, c'est plus un pays. C'est plus un pays, il faut dire la vérité aux gens, c'est un squat géant de punk à chien. On sait encore s'éclater dans notre beau pays. Et puis l'autre info, c'est bien sûr la responsabilité des réseaux sociaux, la loi Avia. Devait permettre de les réguler, mais elle a été retoquée, vous le savez, par le Conseil des sages, le Conseil constitutionnel.
Oui, tout à fait. Oui, bonjour, c'est...
Là,
j'ai reconnu. Moi, je ne roule pas l'air, mais j'ai un petit timbre de voix. Petit accent. C'est Alain Juppé. Bonjour, monsieur Krebs.
Bonjour, monsieur Juppé.
Écoutez, en tant que membre du Conseil constitutionnel, je tiens à vous rassurer. Nous sommes en train de réexaminer tout ceci avec attention et nous travaillons sur la régulation des réseaux sociaux. Vous savez, nous savons aller sur le terrain, nous savons être pragmatiques. Je suis d'ailleurs à l'instant sur mon ordinateur qui s'allume. Voilà. Alors,
on est en 92 là. Voilà.
Donc Internet. Si je clique sur menu, ça veut pas. Attendez, je vais cliquer sur la petite corbeille.
La petite corbeille.
Voilà. Attendez. Un instant, excusez-moi parce que j'ai besoin d'aide. Valérie, vous savez vous servir de l'ordinateur ? Non, c'est parce que je dois apprendre à réguler Twitter. Nous voudrions...
Attendez, le second, j'arrive. Alors, vous tapez... Vous tapez 3615 Twitter.
3615
Allez, 3615... Oula, ça...
Apparemment, il ne marche pas. Je pense que ça vient du clavier, peut-être. Ne vous inquiétez pas, on est sur le coup, en tout cas. On est
bon,
sur le coup.
Merci, messieurs. On va vous laisser avec vos problèmes d'ordinateur.
Merci, Valérie.
Jean-Michel Blanquer, on a parlé tout à l'heure avec Sonia Mabrouk sur Europe 1. Samuel Paty a reçu hier la Légion d'honneur à titre posthume. Jean-Michel Blanquer qui est toujours avec nous. Bonjour, monsieur le ministre.
Oui, bonjour, madame Julie. Et oui, Samuel Paty a reçu la Légion d'honneur à titre posthume. Il la mérite amplement. Il a défendu nos valeurs qui sont, faut-il le rappeler, je les ai notées d'ailleurs sur ce post-it, vous voyez là.
Oh là.
La cité, la cité, c'est important.
La laïcité.
Non, pardonnez-moi, je n'ai pas mes lunettes, je les ai garées ce matin. Et puis également, vous le savez tous,
liberté d'expression, s'il vous plaît.
Liberté. Ah, vous connaissez. On va se parler franchement aujourd'hui de façon transparente. Vous savez, au ministère de l'Éducation nationale, on regarde toutes ces notions de très loin. Vous savez, c'est le travail des professeurs d'être sur le terrain, d'enseigner ça.
Justement, c'est ce que beaucoup de profs vous reprochent, d'être abandonnés depuis des années par leur hiérarchie quand ils abordent ces sujets compliqués. Parfois, ça fait des vagues avec leurs élèves. Et vous n'intervenez jamais.
Non, mais Je n'aime pas cette expression de pas de vague. Je n'aime pas ça. Je l'ai dit à Mme Mabrouk.
Oui.
C'est pas vrai. On ne peut pas nous reprocher de n'avoir rien fait. Je sais que c'est le leitmotiv en ce moment parce que voilà. Mais chaque fois qu'il y avait un problème, il faut le savoir avec un élève, nous sommes toujours intervenus. L'éducation nationale est toujours intervenue et le professeur a toujours été sanctionné.
Non mais justement, c'est ce qu'on vous reproche enfin.
Comment ça ?
Écoutez.
Ah oui, ah d'accord. Ah oui, ok, je vois. Donc c'est pas le professeur qu'il faut sanctionner, c'est d'accord. Ah oui, non mais vous savez, écoutez, encore, je pense qu'il faut être transparent. C'est une des valeurs républiques, c'est la transparence, c'est la transmission. Vous savez, on a été un petit peu perdus. C'est vrai qu'on... Oui, c'est le contraire. Oui. Non, parce que les profs, vous savez, il faut se mettre à notre place. Le ministère, ils n'arrêtent pas de réclamer des choses, ils réclament de la considération, ils réclament des moyens, ils réclament du soutien, ils réclament du courage, ils réclament du matériel, ils réclament des effectifs. Ils se plaignent tout le temps, les professeurs. On finit par plus savoir ce qui est important ou pas dans toute cette liste. C'est pour ça qu'on peut inverser les notions.
Il y a tout, tout est important.
Ah tiens, oui, tout est important. Oui, c'est une opinion qui se défend. Vous auriez fait une excellente professeure, Madame Julie. Vous pourriez même faire une excellente ministre de l'Éducation nationale.
J'en rêve la nuit, oui.
Vous avez plein d'idées originales, en fait. Des idées simples, mais originales.
Merci, Monsieur Blanquer. En déclarant qu'il y avait un problème avec la communauté tchétchène, Jean-Luc Mélenchon s'est attiré la colère, bien sûr, des Tchétchènes. Ceux d'Europe ont appelé à porter plainte contre lui. On est en ligne avec Jean-Luc Mélenchon. Bonjour.
Bonjour. Oui, il y a un problème avec les Tchétchènes. Et quoi, faut rien dire, c'est ça ? Faut les laisser saccager tout Dijon. On les laisse commettre des attentats et on ne dit rien, c'est ça ? Alors c'est quoi ? Attendez, j'ai mon interphone. Je suis chez la maison, madame Julie, excusez-moi.
Bah,
oui, allô ? Allô ?
Monsieur Mélenchon, moi être tchétchène, je vais venir moi avec communauté tchétchène dire bonjour à vous, monsieur.
Oui, mais monsieur Mélenchon, c'est mon papa, il est pas là. Je peux prendre un message, mon papa, il est pas là.
Si, toi être là, je moi reconnaître voix de toi. Moi vu toi à la télévision. Ouvre. Nous discuter calmement, ouvre.
Non, attendez, on va se parler gentiment, je sors de la douche là, excusez-moi, je ne peux pas vous recevoir. Et en plus, j'ai rien à vous offrir à boire, j'ai pas de gasoil à la maison, voilà, oui.
Oh là là.
Oui, vous ne saviez pas, même Julie, mais les Tchétchènes, ils mangent des briques et ils boivent de l'essence, il paraît. Vous êtes combien, monsieur ?
28, 2 fois 14.
Oh putain.
Nous vouloir discuter. Voilà, tout ouvrir. Vous avez beaucoup bruit dans la rue. Beaucoup de bruit, travaux, bruit.
Entendez
rien,
ça.
Pas grave. Nous voulons rentrer. Ouvre.
Non, 28, ils sont 28, ils vont me découper. Non, mais je vous ai dit, je m'excuse. Voilà. Je pensais pas ce que je disais. Je voulais blesser. Voilà, je voulais blesser personne. Voilà.
Nous voulons discuter avec toi. Pas blesser toi. Discuter avec toi. Discuter.
Oh putain, ils vont me tuer. Vous avez entendu, Julie ?
Bah oui, on entend.
C'est les Tchétchènes, ça. Ils sont assoiffés de sang. On peut pas leur faire entendre raison. Je suis sûr qu'ils ont coupé un doigt à Alexis Corbière avec un sécateur.
Oh,
non, mais appelez. Faites quelque chose plutôt que vous m'arrêtez bêtement, là. Restez pas planté comme ça. Les bras ballants, là. Tout le monde est contre moi ou quoi, là ?
Mais
la République, c'est moi ! C'est moi !
Merci, monsieur Mélenchon. Merci. Le ministère de l'Éducation nationale a suspendu mardi la distribution aux enseignants de masques de la marque DIM. Le site Reporter affirme qu'ils sont traités avec un produit toxique, la zéolite d'argent. Tout de suite, un communiqué de la marque DIM.
Moi, bien pour sûr. Me sentir protégé et léger à la fois, je ne sors jamais sans mon masque DIM. Un voile de coton respirant, une coupe élégante, des fibres ultra sensibles. DIM, c'est le confort d'un masque totalement... DIM, c'est le confort d'un masque totalement traité à la zéolite. Traité à la zéolite. DIM, c'est le confort allié à l'élégance. Oh putain, je peux pas respirer. Au secours. DIM, mon partenaire Covid. Oh putain.
Bon, on a compris les masques DIM. Merci. Gérald Darmanin a suscité la polémique toute la journée d'hier en se déclarant choqué par la présence de rayons kasher ou halal dans les magasins d'alimentation.
Attention, cette fois-ci, ça va trop loin, Mme Julie, M. Cabol.
Monsieur Larcher, on vous a reconnu. Merci d'intervenir en tout cas. Vous êtes président du Sénat et donc garant d'un certain sens de la mesure républicaine. Et vous trouvez que Gérald Darmanin va trop loin ?
Oui, là, là, ça ne va pas du tout. Madame Julie, je vous le dis, monsieur Crêpe.
Monsieur nous... Crêpe.
Pardon, c'est pas Crêpe.
Ah, il y en a plusieurs, ah, crêpes. Oui, crêpes. Oui,
ah, c'est encore mieux, j'adore les crêpes. Mais alors, oh, il y en a plusieurs, s'il y a un, c'est parfait.
C'est encore mieux.
Justement, contrairement à ce que dit Gérald Darmanin, chaque Français, quelles que soient ses origines, doit pouvoir s'alimenter comme il le souhaite. Non, je dis non aux discriminations de ceux que l'on mange. Moi, vous me lâchez dans un supermarché, je bouffe tout, sans distinction. Que ce soit des rillettes de porc, du bœuf halal, des frites cachères ou des Kinder Chocobon, témoin de Jéhovah, je m'en fous, je ne chipote pas.
Donc, il n'y a aucun rayon alimentaire qui vous choque, vous, monsieur Larcher.
Si, si, je dois vous dire, ça fait des années que je suis choqué par le rayon... fruits et légumes.
Ah, pourquoi ?
Ah, les légumes, c'est pas parce que ça me choque.
Quoi ?
C'est pas parce que ça me choque que je dois les discriminer. Voilà, tenez, je voudrais bien exclure les choux de Bruxelles et les renvoyer en Belgique, mais ce ne serait pas bon pour le vivre ensemble de mon assiette. On a besoin de tout et de tout le monde.
Eh ben, on a compris. Merci pour le message, monsieur Larcher. Elle était avec nous ce matin à 7h40 sur Europe 1, c'est Laetitia Hallyday. On l'avait entendue d'ailleurs déjà sur TF1 dimanche. Alors Laetitia, bonjour.
Bonjour.
J'adore.
Il est super, Mathieu Charrier.
Vous avez déclaré que ça a été dur d'aimer un autre homme et que Johnny est encore présent. Je vous cite, c'est un couple à trois.
Oui, oui, Julie, c'est pas facile d'oublier Mamour. Je sais que c'est difficile pour Mamour 2.
Alors, Mamour 2, c'est Pascal Ballant, c'est ça ?
Oui, Pascal Ballant. Ouais. Tu connais son frère ?
Ah, oui, non, son frère, oui,
Non, enfin, bref, on s'en fiche, c'est pas ça, ça l'important.
Philippe, oui, bien sûr. Oui, allez, on enchaîne.
Non, mais je voulais faire un petit coucou à Philippe.
D'accord, on fait un coucou à Philippe, mais on parle des mamours, là, pour l'instant.
C'est important,
alors.
Il est à la direction d'Europe.
Oui, oui, vous pensez.
Sinon, les auditeurs, ils comprennent
bah
rien.
Oui, ça, c'est sûr, c'est un peu private joke. Alors, Laetitia, vous nous parlez donc de Mamour 1, Mamour 2, dites-nous.
Oui, c'est ça. Attendez un instant. Mamour 1, Mamour 2, Mamour 1, Mamour 2, c'est le petit déjeuner, il est prêt.
Ah, mais vous mettez une assiette pour le petit déjeuner de Johnny ?
Oui, toujours. Tu sais, on n'oublie pas Mamour comme ça. Mais je vais t'avouer un truc, Julie, c'est que depuis 3 ans, depuis son décès, il a moins d'appétit, Mamour 1.
C'est drôle, mais c'est limite... Bon, dans l'interview, vous faites une confidence émouvante. Vous dites que vous n'avez jamais dit à Mamour qu'il allait mourir.
Chut, mais ça va pas. Chut, dis-toi, il est toujours pas au courant.
Oh non. Non. Et avec Pascal Ballant, alors, qui est restaurateur, lui, hein. Comment ça se passe ? Ça se passe bien ?
Ben, pas trop, tu vois.
Ah bon ?
Ah oui, tu vois, Mamour, il est décédé, ben, il vient de sortir un single exclusif. Et l'autre, là, mon restaurateur, il est vivant, ben, sous prétexte que les restos sont fermés, il en fout plus une. Quel feignasse, Mamour 2, je te dis pas.
La revue de presse de Nicolas Canteloup avec Julie, qu'on retrouvera demain. Et on salue les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian. Arnaud Demange. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Sébastien.
Quel est le programme de Culture Média ce matin ?
Alors l'info du jour, c'est la situation catastrophique que vit en ce moment l'industrie du cinéma et du spectacle avec le couvre-feu. Les salles s'adaptent, mais d'autres menacent de fermer. Et là, à 10h, le Premier ministre Jean Castex, a convoqué les acteurs de ces industries pour leur dire quoi ? Ils ne le savent pas. Nous, on vous racontera tout ça, ce que sera du mieux ou du pire. Et puis, 6 à la maison, vous avez vu ça hier, c'est la nouvelle émission que vient de lancer hier, une quotidienne, c'était jamais arrivé, France Télévisions, co-présentée par Patrick Cohen et Anne-Elisabeth Lemoine. Il sera avec nous, Patrick Cohen, et aussi la directrice des programmes de Troisième Œil, Justine Planchon, le producteur, et aussi Bertrand Chamerois. Et puis enfin, l'humoriste Arnaud de Samer pour son nouveau spectacle. Il raconte sa vie, ses 4 dernières années de vie pas très glorieuses, 2 mariages et un enterrement.
A tout de suite, Philippe Vandel, Culture Média, juste après le journal de 9h. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute d'Europe 1. Je vous retrouve demain dès 7h pour le 7-9. D'ici là, le monde aura changé et on va vous le raconter.